Il est présentement midi une minute. Vous êtes à l'émission On en jase, votre émission du midi. Analyse de l'actualité, résumé parfait. Des invités qui vous permettent justement d'en savoir plus. D'ailleurs, aujourd'hui, aux alentours de midi 45, Pierre Paulus va être avec nous. Le député conservateur du Canada pour la circonscription de Charlebourg-Haute-Saint-Charles et lieutenant du Québec pour le Parti conservateur du Canada. Il va nous expliquer pourquoi il réclame la démission de Léna Diab, la ministre de l'Immigration. Ça continue de brasser en immigration ici au Québec et au Canada. On aura également un invité très intéressant, Éric Gingras, vers 13h25. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez vu la une du journal Le Soleil aujourd'hui. Mais on paye des millions de dollars au total pour des panneaux en avant de nos écoles, mais on n'est pas capable de prendre soin de nos bâtisses. On va parler de ça avec Éric Gingras, président de la CSQ. Et Mathias Turcotte sera avec nous aux alentours de 12h30. Gros dossier qu'on suit depuis le début de la semaine, Pascal CV. L'usine à Saint-Nicolas, le traitement des eaux usées à Lévis, le moratoire. Bref, on envoie 15% de notre caca à Lévis dans le fleuve.
Alors, je dis de même, mais c'est parce que c'est ça.
Ben, comme Véro Bergeron l'a dit, c'est le Flushgate.
Ben donc, oui, mais on disait ça dans le temps du maire Coderre qui avait été photographié et filmé à Montréal à côté des gros tuyaux d'égout en train de flusher le déversement de chaque citoyen dans ce coin-là, direct dans le fleuve. Après, mettons, le passage des grands voiliers, les feux sur l'eau du fleuve, la baignade, hein, ça nous tente un peu moins.
On envoie notre marde direct dans le fleuve à Lévis. Fait qu'un autre beau legs de Gilles Lehoulier.
Un legs de marde dans l'eau.
Oui, un legs de marde, ouais, c'est le cas de le dire.
Pas pleurer de rire.
Okay. Mathias va venir nous expliquer. Stephen Blaney qui se retrouve un peu entre deux chaises là-dedans. Et je m'explique, c'est qu'il ne peut pas arriver et dire « Gilles Lehoulier, c'est un tout croche parce qu'il va payer 30 millions aux entrepreneurs puis 6 millions d'amendes au ministère de l'Environnement. »
Ça s'appelle faire de la business, hein?
C'est
la politique
ça.
Aussi.
Exactement. Ça. Dans sa tête, il doit dire « s'il m'a laissé un trou de 13,9 millions puis là, il me lègue ça. C'est un écœurant, Lehoulier. » Mais devant la caméra, il faut qu'il sourie. Puis il dit « oh non, Gilles Lehoulier, fait un bon travail, parce que sinon, c'est les pertes immenses dans le budget de Lévis.
Ça s'appelle une gestion de crise, ça, en politique, en affaires, etc. Donc, la communication, aller faire appel à des experts pour tout sortir de la merde.
Sortir de la merde. Et voilà, exactement, c'est le très, 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 très bon terme. Donc, c'est tout ça qui vous attend à l'émission. On va finir l'émission avec Gabriel Giguère qui m'a fait un petit coucou un matin. Il m'a dit « Hey, Jeff, qu'est-ce que t'en penserais, même si je suis passé lundi, que je passe le jeudi comme d'habitude? J'aimerais ça te parler de décote puis de référendum. C'est vraiment le référendum qui fait en sorte qu'on paye 0,05% plus d'intérêt au Québec que l'Ontario sur nos prêts ou c'est notre décote? » Parce que le ministre Girard, là, j'ai un extrait, là, il a dit « Voyons donc, ça n'a jamais existé, ça. On n'a jamais fait le pire déficit de l'histoire du Québec. » On va jaser de ça avec Gab Giguère. Puis pendant 100 ans, en plus, la Caisse de dépôt et de placement a déposé son bilan hier. 9,3% de rendement, sont rendus à 517 milliards de dollars d'actifs. Mais l'indice de référence est à 10,9. Comment ça, Pascal? On gère mal notre argent de même au Québec. On va jaser de ça avec Gabriel Giguère, c'est certain. Meilleur moyen de nous écouter, c'est l'application BLVD. Vous téléchargez le tout sur App Store ou Google Play Store. Vous réagissez avec nous au 418-971-1021. Vous le faites toujours bien. Venez nous voir sur twitch.tv/BLVD/FM. Également, abonnez-vous à notre page YouTube pour avoir les meilleurs moments de toutes les émissions et nos excellents podcasts. Victor Henriquez va remplacer Antonine Iaccarini dans le caucus. Mais avant, Pascal, quelles sont les principales manchettes de l'actualité?
Opération majeure pour affaiblir les activités du Blood Family Mafia, le BFM, du côté de Montmagny. Et toute une, on a arrêté des individus qui sont reliés au fugitif Tommy Bernier-Thibault. Alors, c'est une énorme frappe, une grosse opération policière. C'est toujours en cours à Montmagny. Donc, les autorités prévoient réaliser environ 6 perquisitions, une dizaine d'arrestations dans le dossier. Ce sont des infractions réprimées en matière de stupéfiants, de trafic de stupéfiants, mais aussi à caractère sexuel. Alors, on va suivre ça aujourd'hui. Le RTC veut rendre sa desserte du Vieux-Québec plus efficace. Ben, pourquoi? Parce que c'est demandé, mais aussi on va en avoir besoin. Donc, on a présenté hier soir des alternatives aux citoyens pour mieux desservir le secteur à l'approche de nombreuses entraves à venir, entre autres reliées au projet de tramway. face à face extrêmement tragique, hein, face à face qui a fait un mort et deux blessés dans la nuit de mercredi à jeudi. Alors, la nuit dernière, c'était sur l'autoroute 20 à Lévis, en Chaudière-Appalaches, autour d'une heure du matin, où on a convoqué les services d'urgence à se rendre sur l'autoroute Jean Lesage. On disait qu'il y avait eu un violent impact en direction ouest. C'était près de l'intersection de l'avenue Taniata. Donc, automobiliste qui s'est engagé en sens inverse sur la 20 et qui a percuté de plein fouet une ambulance qui passait par là. Absolument tragique. On en reparlera également. Et je veux faire un clin d'œil sur les perquisitions dans l'enquête sur la mort de l'ado qui a été tué par un policier du côté de Longueuil. Donc, la police de Montréal qui est là-dessus. On est depuis ce matin dans plusieurs perquisitions sur les événements qui précèdent la mort de Noran Rezaï, cet adolescent de 15 ans qui a été abattu par un policier l'automne passé.
Au sport, le Canadien reçoit les Highlanders de New York ce soir au Centre Bell. C'est le retour du CH en action amateur de hockey. Et Matt Scherzer, Mad Max, un lanceur de 41 ans, Pascal, qui signe un contrat d'un an avec les Blue Jays de Toronto. Il avait très bien fait l'an passé avec les Jays. Il a décidé de revenir. 41 ans, déjà gagné des séries mondiales, puis il a dit le meilleur endroit où je joue au baseball, c'est à Toronto. Donc, décide de revenir. C'est très intéressant pour les amateurs de baseball. Place au caucus!
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le caucus avec Victor Henriquez en remplacement d'Antonin Iaccarini. Mon cher Victor, comment vas-tu?
Ça va très bien, et vous autres?
Ça va bien. Super bien. Victor, j'ai vu que le Bloc québécois a annoncé la candidate dans Terrebonne. C'est la même personne qui était là lors des dernières élections qui devra être reprise. Mais là, j'entends dire que Mark Carney penserait de plus en plus à faire des élections hâtives au printemps parce qu'il dit « Hey, savez-vous quoi? Ma majorité, je vais l'avoir en refaisant des élections. » Ce qui force Pierre Poilievre à faire toute qu'une annonce devant la Chambre économique de Toronto aujourd'hui.
Cette fameuse rumeur d'élection au printemps, je vais t'avouer que j'ai une coupe de bière de Paris à gauche, à droite sur ça. Moi, je suis de ceux qui pensent que Mark Carney, sa grande force, c'est de ne pas être un politicien traditionnel. Un politicien traditionnel ferait exactement ce que tu viens de dire. Il s'en irait à l'élection, il regarderait les sondages, il dirait « Moi, j'y vais, c'est le moment, j'ai besoin d'une majorité. » Rappelez-vous les deux mains sur le volant de Jean Charest en 2008. Ouais. « On est en crise, j'ai besoin d'un mandat fort. » Parfait. Puis honnêtement, ça fait du sens aussi parce que c'est vrai que face à Donald Trump, avec une renégociation de la CEOM qui s'en vient, l'accord de libre-échange, c'est vrai que ça va te prendre les deux mains sur le volant, puis il faut que tu t'assures d'avoir exactement le mandat clair pour aller négocier ça. D'un autre côté, Mark Carney est en train d'obtenir sa majorité juste avec des transferts de conservateurs modérés qui s'en viennent chez les libéraux. Alors, est-ce que vraiment il y a besoin de déclencher une élection ou est-ce que dans le fond, il est quasiment majoritaire, puisqu'on le disait, hein, avec la défection de Matt Gener, il s'est retrouvé à un siège de la majorité. C'est Elizabeth May qui tient en ce moment le gouvernement dans la majorité. Alors moi, je pense que si j'étais lui, je n'irais pas à l'élection maintenant. J'irais peut-être à l'automne. Ça ne change pas, par exemple, la stratégie des conservateurs qui, eux, ont décidé de changer de technique parce qu'ils gagnent la période des questions, mais ça, il n'y a personne qui l'écoute.
Peut-être que tu vas trouver ma question idiote, Victor, mais je me lance quand même. Est-ce pas un avantage actuellement d'être minoritaire pour Mark Carney avec tout ce qui se passe parce que le fait d'être en constante relation avec l'opposition, de ne pas être dans l'obligation et l'affirmation et vous êtes obligé parce qu'on est majoritaire, etc., ça amène un genre de conscience sociale, mais aussi un calme social, de ne pas paraître comme étant dictatorial dans certaines décisions qui pourraient brasser les choses, bien que ça peut lui faire avancer des dossiers plus rapidement d'être majoritaire.
T'as raison, c'est sûr que ça donne une image aussi de quelqu'un qui est capable de concilier avec ses adversaires. Puis ça, c'est toujours positif. Puis il y en a un qui a essayé d'aller chercher une majorité en pleine crise. Je sais pas si vous vous rappelez, il s'appelait Justin Trudeau en 2021. Il a dit « j'ai besoin de mettre les deux mains sur le volant en pleine crise sanitaire ». Il est allé en élection et il s'est retrouvé avec le même résultat qu'avant. Et les gens t'en veulent quand tu fais ça, parce que les gens aiment pas les élections. Je suis sûr que on demande aux auditeurs de nous demander s'ils veulent une élection au printemps ou pas. Je suis sûr qu'on va en avoir plus de 80% qui vont dire « non, j'en veux pas ». Et ceux qui en veulent, c'est parce qu'ils espèrent faire rentrer Pierre Poilievre ou qui veulent faire tomber le gouvernement. Les gens qui appuient Mark Carney ne veulent pas d'élection, ils veulent juste que ça continue de même. Alors là-dessus, je pense que pour moi, c'est assez clair. Mais je suis prêt à ouvrir le pari de bière avec toi, Jeff, parce que comme je te dis, j'en ai une coupe d'ouvert à gauche, à droite, alors ça en fera une de plus. Mais je veux revenir sur la stratégie de Pierre Poilievre aujourd'hui, parce que il y a un truc là-dedans qui est super important, c'est que Pierre Poilievre s'en va ce matin parler de sa stratégie, ce midi parler de sa stratégie de négociation avec les États-Unis. Et après ça, il s'en va en voyage en Allemagne puis en Europe comme chef d'opposition officielle. C'est son premier voyage comme chef d'opposition officielle. C'est un homme qui n'aime pas sortir du pays.
Attends, t'es en train de me dire que pendant toutes les années, Justin Trudeau, il n'est même pas allé en Europe alors que les gens le voyaient comme le futur premier ministre.
Ben, ma compréhension, puis là, je fais bien attention à ce que je dis parce que je ne veux pas avoir l'air fou, mais ma compréhension, c'est que c'est le premier qui le fait. C'est certainement le premier qui fait dans ce mandat-ci. Maintenant, dans le mandat précédent, à voir, ça reste qu'il y avait une pandémie pendant ce mandat-là. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que on voit aussi un changement dans la stratégie conservatrice parce qu'ils se rendent compte qu'ils doivent aller chercher de la crédibilité. Et on va se rappeler d'une chose, on est un entretien chez les conservateurs parce que la dernière élection, les conservateurs l'ont échappé à cause de deux choses. La première, c'est qu'ils n'avaient pas de plan de match clair avec Donald Trump. La deuxième, c'est que Pierre Poilievre n'avait pas d'équipe. Ce matin, on nous présente le plan de match. Ce midi, on présente le plan de match avec les Américains. Parfait, il y en a une de couverte. La deuxième, c'est l'équipe. La troisième, c'est que je pense que la stratégie conservatrice prend en considération qu'il n'y aura pas d'élection à court terme. Donc, il doit aussi aller diversifier parce que là, il est à la période de questions. La période de questions, il est bien bon, mais il n'y a pas l'air d'un premier ministre en attente face au premier ministre qui n'est jamais à la période de questions. Mark Carney est là une fois par semaine au maximum. Et Pierre Poilievre a bien beau gagner la période de questions. Est-ce que vous connaissez un de vos voisins qui s'assoit devant la période de questions à tous les jours, vous? Parce que moi, je l'écoute, mais c'est une maladie que nous sommes très peu à avoir.
qu'est-ce qui lui fait peur, en fait, de ne pas être plus proactif, selon toi? D'être trop proactif?
C'est que d'abord, t'as tout le temps l'air d'être le « angry conservative », le conservateur frustré qui est toujours en train de s'opposer aux idées. T'as pas grand-chose à proposer. Puis l'autre chose, c'est que en termes de notoriété, de diplomatie, tu n'as pas d'envergure internationale. C'est une des grandes forces de Mark Carney. Lorsqu'on fait l'analyse de la popularité de Mark Carney, il y a la crédibilité de l'économiste, le gouverneur de la Banque du Canada, mais on dirait que quand Carney se promène, les gens l'écoutent. Et là, il faut qu'il lutte contre probablement le plus grand discours qu'un premier ministre canadien ait donné depuis Byron Mulroney, soit le discours de Davos de Mark Carney, qui est allé marquer les esprits. Il doit aller chercher des alliés, il doit montrer qu'il est capable d'être un premier ministre d'un pays, parce que sinon, Pierre Poilievre est probablement le meilleur chef d'opposition qu'on ait vu à la Chambre des communes depuis très longtemps. Mais ça fait pas de toi un premier ministre.
Non, en effet, parce que Mark Carney est allé justement chercher des appuis en Europe, en Chine, est en train de négocier avec le Mexique, donc diversifie vraiment ses appuis. On revient au Québec, Victor Henriquez, avec cette guerre ouverte entre le gouvernement de la CAQ et les médecins spécialistes. Je pensais pas voir ça après la façon qu'on a réglé le tout avec les médecins omnipraticiens, c'est-à-dire les médecins de famille. Je te fais entendre François Legault à son arrivée aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
600 000 $ par année, moi, je pense que c'est suffisant. Je pense que les Québécois sont d'accord avec moi.
Est-ce que c'est le moment, M. Legault, de dire justement si ça suffit? C'est ça que vous dites ce matin?
Non. Ça suffit, oui.
Et Seigneur, ça suffit! On se croit alors venu au mois de décembre ça quand suffit. La loi spéciale était là, puis Christian Dubé était encore en poste, puis on dirait que François Legault n'a pas donné sa démission. Mais qu'est-ce qui se passe? On a donné un pont d'or aux médecins de famille, on leur a enlevé les conditions, on leur a dit c'est pas grave, 500 000 personnes, ils n'ont pas besoin d'avoir un médecin de famille, ils ont juste besoin d'avoir un rendez-vous. Puis savez-vous quoi? Quand ils vont voir la IPS, l'infirmière praticienne spécialisée, vous chargez un acte, vous autres aussi. Mais là, on part en guerre avec les spécialistes.
Ben, c'est intéressant. Moi, j'ai trouvé ça très drôle comment François Legault, tu l'as entendu penser à la ligne que le journaliste lui a suggérée. Ça fait comme, ben ouais, c'est une bonne idée, ça suffit. C'est bon, je vais apprendre celle-là. Alors, j'ai toujours aimé le naturel de François Legault. Hein. Et c'est le fun à entendre. Puis je riais, puis je me disais, ah, OK, ce naturel-là va peut-être nous manquer. Ça se peut que dans un an, on disait, hey, on s'ennuie de François Legault puis de son authenticité. Alors, oui, sur les spécialistes, je comprends ce que tu me dis. Puis je suis à la même place que toi sur les omnipraticiens. Il y a une chose, moi, qui me frappe, par exemple. Les omnipraticiens, c'est le médecin que toi puis moi, on voit le plus souvent. C'est celui dont on a besoin. C'est celui qu'on veut avoir d'accessible. Le médecin spécialiste, c'est celui qu'on veut jamais voir, qu'on espère ne jamais voir, et c'est le plus riche de la gang. Et là-dessus, je pense que François Legault fait bien de tenir la ligne dure parce qu'il y a un chiffre qui est magique là-dedans. 600 000 par année. Est-ce que tu connais un Québécois de la classe moyenne qui va broyer pour un médecin qui fait 600 000 pièces par année? La réponse est non. Ça n'arrivera pas. Et Dr. Oliva nous est arrivé ce matin en disant « Ouais, on a de l'ouverture à négocier. » Leur demande est à 14,5, le gouvernement est à 11. Mais ultimement, ce n'est pas le gouvernement, c'est nous autres qui payent. Puis à 600 000 par année, est-ce que vous pensez que les Québécois vont aller se battre pour les spécialistes? Mm-hmm. On est prêt à se battre pour les médecins de famille parce que c'était les enfants pauvres de ce domaine médical. Mais je pense qu'on est prêt à se battre pour les spécialistes, surtout à ce prix-là.
Oui, en effet. Puis, il y avait un très grand écart de rémunération entre les médecins de famille et les médecins spécialistes. On a donné 17 % aux médecins de famille. C'est pour ça qu'on donne 11 % aux spécialistes pour réduire cet écart-là. Mm-hmm. Mais tu as parlé du docteur Vincent Oliva, justement, président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Je te fais entendre ce qu'il a dit en point de presse aujourd'hui.
Notre lecture, c'est que le gouvernement négocie en matamore. Puis je comprends que le terme est peut-être un petit peu fort, mais en gros, ce qu'il veut, c'est imposer ses conditions. Et lorsqu'on ne les accepte pas, bien, on ne discute plus. Parce qu'actuellement, vous pouvez penser qu'on est en négociation, mais ça fait un mois qu'il n'y a pas de discussion de négociation, il n'y a pas de table.
Victor, tu es un spécialiste en communication. T'entends le gouvernement négocier en matamore, il dicte, puis d'un autre côté, t'entends le premier ministre dire 600 000, ça suffit. C'est drôle, mais... Dis-moi mes conditions de travail si tu me donnes 600 000 $ par année.
Je suis à la même place que toi, je vais le prendre, mais je veux juste. Puis ça s'applique aux deux en passant. Quand François Legault dit ça suffit et qu'il parle du 600 000, il pense à ce que nous, on paye. Mais quand Dr. Oliva a dit que le gouvernement négocie en matamore, il pense au gouvernement. Moi, j'inviterais, puis je respecte les gens de communication. Il y a des gens de communication derrière la Fédération des médecins spécialistes, des gens intelligents qui pensent à tout ça, mais qui ont le grand défi d'allier ce que les médecins spécialistes veulent et ce que la communication nécessite. Je les invite juste à faire une chose. Il faut qu'on parle aux gens. Et Dr. Oliva, j'ai jamais l'impression qu'il me parle à moi. Je comprends qu'il parle à ses membres. Je comprends qu'il définit le gouvernement. Mais moi, je veux savoir en quoi une augmentation à, mettons, 13 % va les aider à me faire du bien comme citoyen. En quoi cette augmentation-là va me permettre comme citoyen d'avoir une meilleure santé, un meilleur système de santé, plus efficace, plus ouvert, plus accessible. Si tu ne me donnes pas cette réponse-là, je ne te suivrai pas. Et c'est là où est-ce que la communication, il faut faire bien attention à qui on s'adresse. Lorsqu'on négocie avec le gouvernement, on négocie pas avec le gouvernement seulement, on négocie avec tous les citoyens, surtout à 8 mois d'une élection.
Je m'explique mal à quel point on est capable, puis c'est peut-être la beauté de la communication et donc son côté sombre aussi, à quel point on est capable de changer ce qu'on pense ou ce qu'on voit selon le pouls entre une spécialité et le gouvernement. Je m'explique. Oui, il y a eu cette manœuvre-là du gouvernement d'aller taper sur la tête des médecins spécialistes. À un moment donné, ça n'a pas passé parce qu'on a vu qu'il y avait des coupures qui étaient quand même importantes pour eux. Et ensuite, on a réussi à remettre le public derrière le gouvernement dans les derniers jours, du moins, selon ce que je constate, par rapport au fait qu'ils sont chanceux et ils amassent de l'argent quand d'autres travaillent aussi. Hein. On a vu ça, là, qu'ils peuvent toucher des primes quand ils ne travaillent pas. C'est fou quand même l'opinion publique qui est malléable comme ça, non?
Oui, il y a une partie qui est ça, mais justement, c'est là où il faut portionner l'opinion publique puis se rendre compte sur quoi est-ce que l'opinion publique appuyait les médecins. Rappelez-vous, lorsque les omnipraticiens sont sortis, notamment les femmes médecins qui nous ont parlé de leur réalité, elles nous ont parlé du fait que justement, ça allait baisser leur salaire de 25 % dans certains cas. On est venu humaniser la situation, puis on est surtout venu de nous dire du côté des omnipraticiens ce que ça pouvait provoquer comme enjeu pour nous, comme patients. C'est là où est-ce que les Québécois ont commencé à virer, à dire « Attention, moi, je ne veux pas perdre mon médecin de famille. Je ne veux pas ne plus avoir de rendez-vous. Je ne veux pas que mon médecin soit moins bien traité. Je ne veux pas que mon médecin ait moins le goût de pratiquer ou qu'il s'en aille en Ontario. » C'est là qu'on a marqué des points parce qu'on nous a parlé. Dans le cas des spécialistes, je n'ai pas l'impression qu'on nous parle. Et c'est pour ça que moi, je dis l'opinion publique, oui, elle a le droit de changer d'opinion et elle se positionne différemment à travers le temps. Mais c'est surtout que l'opinion publique, elle donne son opinion sur la base de ce que tu lui dis et ce que tu lui expliques pour lui. Ça s'appelle la réciprocité. Et si je ne sais pas ce qu'il y a pour moi dans ton discours, à un moment donné, je n'ai pas le temps de t'écouter.
En effet, Victor, chicane entre Éric Girard et Paul-Saint-Pierre Plamondon. On dit, y a une augmentation des intérêts, c'est à cause du référendum. PSPP dit, c'est pas à cause du référendum, c'est à cause du déficit. On va en parler tout à l'heure en fin d'émission avec notre économiste Gabriel Giguère. Mais moi, je veux t'entendre, Victor Henriquez, l'expert en politique. Est-ce que Paul-Saint-Pierre Plamondon est en train de reculer sur le référendum?
Québécois, à juste titre, regarde ce qui se passe au sud de la frontière et constate des choses qui ne sont pas normales et ont des craintes par rapport à ça. Mes adversaires veulent en profiter en disant que ce n'est pas le temps de faire un référendum comme si ça avait lieu la semaine prochaine. Donc, c'est important de réitérer que c'est quelque part dans une fenêtre de 4 ans et dans ces 4 années-là, il y a plusieurs choses qui vont évoluer, qui vont changer.
Victor Henriquez, on parlait d'un premier mandat, là on parle d'une fenêtre de 4 ans. T'es un spécialiste en communication. On est-tu en train d'embrouiller le message un peu?
Tu l'entends pas le camion qui recule? Bip, bip, bip. Moi je l'entends all the way. Le camion il recule en ce moment. Puis il y a du monde au PQ qui veulent avoir une élection. Puis il y a une chose qu'on oublie souvent. Les péquistes ne veulent pas faire un référendum. Les péquistes veulent gagner le troisième référendum. Et ça c'est deux mondes complètement différents. Et je comprends que du côté du Parti québécois, on a promis un référendum. Puis tu sais quoi? Je ne serai jamais de ceux qui va critiquer le désir de certains Québécois d'avoir la souveraineté du Québec. C'est un désir qui est tout à fait louable. Mais timing is everything. Et dans ce cas-ci, Paul-Saint-Pierre Plamondon, de façon très lucide, se rend bien compte que les Québécois n'ont pas d'appétit pour de l'instabilité. Et les Québécois savent qu'un référendum, ça vient avec une instabilité. J'ai bien hâte d'entendre tantôt Gabriel nous parler de la question économique. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Moi, ce qu'on m'a expliqué en passant rapidement, c'est que des obligations, ça se négocie sur 10 ans. Alors, si dans 10 ans, il y a un risque supplémentaire que le Québec, par exemple, n'ait plus la même situation dans le Canada, le coût de tes obligations doit augmenter, donc ton coût d'intérêt vient d'augmenter et ton instabilité augmente. Donc, est-ce que c'est 0,5 ou plus? Peu importe, ça va te coûter plus cher pour ta dette. Ça, c'est ce qu'on m'explique, les économistes m'expliquent à moi, mais je vais entendre tantôt Gabriel. Il y a une chose, par exemple, politiquement parlant, ce qu'Éric Girard a fait, c'est de voir la brèche puis de rentrer dedans. Parce qu'à partir du moment où Paul-Saint-Pierre Plamondon commence à nous parler de consultation publique au lieu de parler de référendum, parle de différentes étapes, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que pendant les 4 prochaines années, on ne sait pas ce qui va arriver. C'est une mauvaise nouvelle pour le PQ. Les Québécois n'aiment pas l'instabilité. Les Québécois ont toujours donné des gouvernements économiques de centre-droite lorsqu'il y avait de l'instabilité, parce que les gens n'en veulent pas vivre les conséquences économiques d'une instabilité. Et ce qu'Éric Girard a fait, c'est de rentrer ça dans la tête du public. Il y a un prix à payer à la menace référendaire, il y a un prix à payer à l'instabilité référendaire, et il y a un prix à payer au fait que Paul-Saint-Pierre Plamondon est incapable de nous dire à quel moment il ferait un référendum. Et ça, ça va le suivre jusqu'à l'élection. Et là, il n'aime pas Éric Girard, mais attends de voir Christine Fréchette puis Charles Millard cogner sur le même clou.
Et ça va donner quel spectacle, ça, en automne, si on essaie de se transposer?
Ça va être un show absolument incroyable. La beauté de la chose, c'est que les Québécois sont intelligents, ils vont faire le choix. Il y a un scénario qu'on ne regarde pas beaucoup, mais moi, je pense que le scénario d'un gouvernement péquiste minoritaire est très, très, très plausible.
C'est ma prédiction. Parce que dans un...
C'est ta prédiction, bravo.
Ben oui, parce c'est que ma prédiction. Christine Fréchette avec la CAQ va aller chercher une coupe de comté puis ça va amener ça minoritaire.
Tu sais, une dizaine de conservateurs, une dizaine de comtés caquistes, 25 à 35 libéraux, puis tout d'un coup, tu te retrouves avec un gouvernement péquiste majoritaire qui n'a pas les mains libres pour faire un référendum, mais qui vient gouverner parce que Paul-Saint-Pierre Plamondon a marqué des points auprès de la population. Je trouve que c'est un peu le scénario du moins pire des scénarios pour le PQ. Parce que le pire des scénarios, c'est que Charles Millard se fasse connaître du bon bord ou que Christine Fréchette prenne le dessus après la chefferie puis qu'elle fasse oublier les années François Legault et qu'il perde cette élection-là simplement parce que les Québécois vont dire « Pas tout de suite, on n'est pas prêt avec ton instabilité. »
Victor, en une minute, j'ai regardé la deuxième portion du sondage Palace comme toi, ça portait sur Christine Fréchette et Bernard Drainville. Est-ce que j'analyse adéquatement quand je me dis que la CAQ a vraiment un devoir de faire connaître Christine Fréchette? 32 % des gens sont très ou plutôt défavorables à elle. Seulement 26 % des gens sont très ou plutôt favorables. Et 39 % des gens ont une opinion neutre. Quand le défavorable est plus fort que le favorable, c'est dur de penser que la CAQ va renverser la vapeur.
100% et surtout quand le favorable a baissé particulièrement par rapport au dernier sondage, je ne me trompe pas, ça a baissé de quelques points.
En effet.
Alors, ce que ça veut dire, c'est que les attaques de Bernard Drainville sur Christine Fréchette, ça fait mal, ça marche. Ce que ça veut aussi dire, c'est que les candidats se sont engagés cette semaine à ne pas faire d'élection avant le mois d'octobre. Vous savez pourquoi? Parce que Christine Fréchette, elle a besoin de 5 mois pour se faire connaître et faire oublier les étiquettes que Bernard Drinville lui a collées sur le dos. Mm-hmm. Alors, vous allez voir une Christine Fréchette qui va chercher à faire oublier François Legault, à faire oublier les étiquettes de Bernard Drinville. Comment est-ce qu'elle va faire ce virage-là? Moi, je suis convaincu que son équipe se prépare à cette course qui va durer du mois d'avril jusqu'au mois d'août. Ça va s'appeler la course à la notoriété, à la redéfinition de la chef.
Et donc, on n'est pas dans les enjeux. On n'est quand même pas dans les enjeux, par exemple.
Mais la vérité, c'est qu'on n'est plus dans les enjeux à partir du moment où est-ce qu'on a des élections à date fixe. Il faut qu'on se rappelle, c'est seulement la deuxième élection à date fixe. Et ce que ça fait, c'est que les périodes préélectorales commencent beaucoup plus tôt. Mais une chose qui est claire, c'est que la prochaine année en politique sera extrêmement intéressante à suivre.
Et on va continuer d'en jaser avec toi, Victor Henriquez, sur les ondes de Boulevard 102.1. Merci beaucoup pour ta collaboration dans le caucus aujourd'hui, en ce jeudi 26 février.
Merci, Agen.
Salut, Victor. C'était Victor Henriquez en remplacement d'Antonine Iaccarini dans le caucus, un segment qui se déroule à compter de 12h05 à chaque jour, du lundi au jeudi, dans l'émission On en jase. Courte pause. Par la suite, Mathias Turcotte vient s'installer. Il va nous parler de cette merde dans le fleuve, Pascal. Je pensais pas qu'en 2026, on parlera encore de ça.
Mais je pensais qu'on avait été assez, comment dire, traumatisé d'eux. Mais en même temps, quand on voit les installations, on peut pas inventer. On n'est pas capable
exactement
de le traiter, le 15% supplémentaire de merde.
L'usine de traitement des eaux à Saint-Nicolas
sur l'heure du midi
envoie du caca ben juste en masse. 15% du caca dans les toilettes de Lévis se retrouve dans le fleuve. On parle de ceci avec Mathias Turcotte. Dans un instant, il a assisté au point de presse de Stephen Blainey, nouveau maire de Lévis, qui est pris avec ce tas de merde-là. Jusqu'à... Émission On en jase. Il est présentement 12h33, ton émission du midi, où tu peux être informé sur tout ce qui se passe dans l'actualité. Je m'excuse, Lisette, je le sais que tu étais en train de dîner quand j'ai parlé de caca. Mais que veux-tu? C'est la nouvelle à Lévis à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, Pierre-Luc qui écrit « Hey, coudonc, la population de la ville n'a pas augmenté de 15% depuis 2022. Ça veut dire que ça doit être un problème qui dure depuis encore plus longtemps. Vraiment décevant de l'ancien maire. » Pierre-Luc nous écrit. Continue à interagir au 418-971-1021. Aujourd'hui, c'est moins 3 présentement. Possibilité d'averse de neige. Moins 4 et possibilité d'averse de neige pour vendredi. À plus long terme, ce week-end, c'est très particulier. 4 degrés avec de la neige ou de la pluie samedi. Moins 10 ensoleillé pour dimanche. Donc, il va y avoir un gros écart de température. Avant de parler du Flushgate, comme l'a dit Véronique Bergeron à Lévis avec Mathias Turcotte, Pascal, deux gros breaking news qui nous sont arrivés.
En fait, c'est des suivis de dossiers, effectivement. Le salut nazi à la ville de Québec, c'est 52 400 $ pour la défense de Bruno Marchand dans le dossier de Vicky Lépine.
Ça, c'est pris dans... Attends une minute, c'est pris dans ma page droite, je pense, hein? Merci, monsieur le maire, de ne pas vous être excusé. Ça vous coûte 52 000, les contribuables.
C'est un mandat qui a été confié par la Ville de Québec à la firme d'avocats BCF. Alors, on est vraiment dans un dossier, effectivement, qui coûte assez cher. Le coût précis du mandat, je vous rappelle, est 52 493,75 $. La poursuite initiale est de 400 000, je vous le rappelle. Sinon, du côté des États-Unis, dans la commission d'enquête sur l'affaire Epstein, Hillary Clinton demande officiellement que Donald Trump témoigne sous serment. Elle témoignait huis clos, elle, aujourd'hui, depuis très tôt ce matin, mais l'ex-chef de la diplomatie américaine veut un genre d'exercice qui sera semblable pour Donald Trump. Donc, elle demande à ce que Donald Trump soit lui aussi convoqué pour témoigner sous serment sur ses liens passés avec le criminel sexuel.
Entièrement d'accord avec Hillary Clinton, qu'on les fasse tous témoigner, ceux qui auront agressé des jeunes filles, bien qu'on les mette en prison, c'est tout simplement ça. Que ce soit un ex-président comme Bill Clinton ou Donald Trump, pour moi, là, tout le monde doit être égal versus la loi, que tu sois président ou ancien président ou un simple citoyen, quoique tu n'as pas des simples citoyens qui s'est flirté avec Jeffrey Epstein.
C'est sûr que qui se ressemble s'assemble à certains moments pour ce dossier-là. Il y a des similitudes.
Exactement. Mathias Turcotte est avec nous en studio. Il revient d'un point de presse à l'extérieur de l'usine de traitement des eaux de Saint-Nicolas. Mathias, avais-tu ton chapeau de poêle comme Stephen Blainey?
Non, moi, j'avais ma capuche. Non, j'ai pas la chance d'avoir un beau chapeau de poil comme le maire de Lévis.
Si on t'en offrait un aux couleurs de boulevard, est-ce que tu le porterais fièrement?
Hey, ce serait quand même exceptionnel. Hein? Moi, j'arriverais à mes points de presse, maire de Lévis, maire de Québec, beau chapeau de poil.
Ben oui! Ça pourrait nous faire un bon branding, un bon marketing. On va en parler.
Ça serait pas inaperçu.
Exactement.
Dire, place au chapeau et non à la récolte d'informations. Mais après, le Rouge et Or qui en vendait aussi de ce
c'est
genre.
C'est vrai.
De,
il était
très
beau.
Rouge. Ouais. Il était beau. Steven Blenné et Mathias Turcotte, tiens.
C'est ça. Bon, 15 % des eaux usées traitées à Lévis se retrouvent dans le fleuve. Donc, si je m'en vais voir mes amis à Lévis puis qu'ils me pognent une envie de numéro 2, j'ai 15 % des chances que, paf, ça tombe dans le fleuve. C'est bien ça, Mathias?
Ben pas pour Lévis au complet. Là, on a tenu à apporter certaines précisions parce que cette information-là nous provient d'un avis confidentiel de mai 2024 que Radio-Canada a réussi à mettre la main dessus, donc Olivier Lemieux et Louise Boisvert, qui ont fait un très beau travail. Donc, c'est la station de traitement des eaux de Saint-Nicolas. C'est 15 % justement des eaux usées au total traitées qui se retrouvent dans le fleuve et la rivière Chaudière. On tient à préciser, par contre, qu'il y a un pré-traitement sur ces eaux-là. Fait que tout ce qui est objet ou matière solide, ça ne se retrouve pas dans la rivière Chaudière ou le fleuve.
D'accord.
Faut le préciser. Par contre, en s'entendant, c'est une situation problématique. On peut rajouter par-dessus ça des poursuites à hauteur de 31 millions de dollars à laquelle la ville de Lévis fait face actuellement en raison des différents moratoires, du moratoire sur les constructions.
Amende qui pourrait aller jusqu'à 6 millions de dollars du ministère de l'Environnement.
Donc, les problèmes commence à s'accumuler. On va s'entendre. Le maire de Lévis, Steven Blenné, qui a donc décidé de faire une sortie aujourd'hui à propos de tout ça.
Puis là, j'imagine que là, vous êtes tous les journalistes. J'ai déjà été sur le terrain. Pascal aussi. Puis là, vous dites à Steven Blenné, c'est-tu 15 %? C'est-tu 18? C'est-tu 17? C'est-tu 12? Puis là, j'imagine que Steven Blenné, lui, il dit... Ben ouais, c'est 15 %.
Si ça serait facile de même.
C'est pas simple de même!
Tu l'as dit, parce que 15 %, ça provient d'un avis de 2024. Donc la question lui a été posée, est-ce que c'est plus que 15 % maintenant? Puis la question lui a pas été posée une fois, deux fois, trois fois.
Alors clairement, est-ce qu'on peut lire entre les lignes qu'il sait pas?
Ben, je vais vous laisser juger par lui-même. Vous-même, j'ai fait une compilation de ses différentes réponses qu'il a données aux questions.
Ça, j'aime ça.
En fait, M. Bellemare, je vous répondrai la raison pour laquelle on investit présentement pour maintenir la capacité et pour laquelle on investit 70 millions, c'est précisément pour rencontrer les nouvelles normes environnementales. En fait, ce que je vous dirais, c'est que les normes se sont resserrées. Donc, probablement que si la station avait été conçue aujourd'hui, elle serait été conçue de manière différente pour répondre aux normes du jour. Vous savez, l'important, à chaque fois qu'il y a une goutte d'eau qui ne devrait pas aller dans le fleuve qui y va, c'est pas acceptable. Et c'est la raison pour laquelle on investit dans nos stations pour corriger la situation. J'ai pas la donnée du 15 ou du 16 % ce matin, non, effectivement.
OK, c'est clair, là.
Ouais, c'est dire, ça.
C'est vraiment tout c'est ça vraiment qui est à 15, la réponse.
C'est vraiment 15 %
Ben, ça, c'est en 2024, mais étant donné les nouvelles constructions, on peut sous-entendre que c'est probablement plus que ça, parce qu'il n'y a pas nécessairement eu de nouvelles infrastructures.
Mais tout ce que tu nous as livré, ce sont des tests de réponse à est-ce 15, 16 ou plus.
Oui, est-ce que c'est plus que 15 %? C'est ça la réponse qui a été posée à chaque fois. Ouais.
Puis... Attends, pose-moi la question, c'est quoi mon indice de bonheur à travailler à Boulevard 102? Pose-moi-la.
C'est quoi ton indice de bonheur, Jeff?
Ben écoute, ça dépend. Est-ce que c'est en 2024 ou en 2026? Puis le studio, s'il y a du soleil qui entre ou non? Si c'est
mais est-ce
nuageux,
que c'est plus que 50 %?
Ben écoute, c'est sûr que si tu m'avais demandé en 2022 si j'aimais travailler à Boulevard 101, j'étais pas encore arrivé, donc je peux pas vraiment me prononcer sur la
mais
situation.
Mais est-ce que c'est plus que 50 %?
Ben écoutez, vous savez, M. Turcotte, comment ça fonctionne. Ici, à Boulevard, on n'a pas le droit de divulguer des informations confidentielles, donc je me dois malheureusement de vous répéter que j'aime travailler à Boulevard 102.
C'est la technique du discours du script dans Astérix et Obélix. Quand vous avez écouté Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, là, avec des gens, là, des acteurs dedans, pas des dessins animés, c'est exactement le même genre de réponse. Il y a beaucoup de politiciens qui se filent là-dessus. Pour terminer avec « Je n'ai pas la donnée
».
Mais qu'est-ce que ça lui empêche, en fait, de faire avancer le dossier en n'ayant pas ce donnée-là, Mathias?
Ben, l'importance de cette donnée-là, c'est que lui, le 11 mars prochain, il présente un plan pour justement mettre à jour les infrastructures, les investissements qui vont être faits dans une levée potentielle du moratoire, mais on ne sait pas encore quand. Donc, de ne pas savoir à quel point la situation est grave dans tes différentes usines, il y a un problème là. Puis justement, je l'ai questionné aujourd'hui, au vu des dernières situations qu'on rencontre du côté de la ville de Lévis, est-ce qu'on peut déduire que la levée de moratoire, c'est pas pour tout de suite?
Bien, est-ce que vous êtes capable d'un claquement de doigts de me rajouter six bassins réacteurs biologiques séquentiels? On est en mode action, on est en mode solution, mais nous aussi, on vit un mode en monde en trois dimensions et on travaille activement à justement à lever progressivement le moratoire. Et je vous invite à être présent le 11 mars.
Je suis content de la réponse de Stephen Blainey parce qu'en débat ici pendant la campagne électorale sur les ondes de Boulevard Sonneau, il avait dit « Ben voyons donc construire une usine temporaire. Moi, je suis ingénieur. Ça se fait en claquement de doigts. C'est drôle. C'est plus compliqué quand on arrive comme maire. »
Ouais, c'est ça. Quand on est plus en campagne électorale puis il faut promettre des choses, ça devient un peu plus difficile.
Quand la réalité en trois dimensions nous frappe.
Mais j'ai-tu le droit quand même de défendre M. Blainey sur une chose? Le nombre de briques qui lui tombent sur la tête depuis
clair.
Qu'il est
c'est
arrivé
clair,
en politique puis à la...
Ben, le grand responsable est Gilles Laulier. Nous.
Pas depuis qu'il est arrivé à la politique, mais depuis qu'il est maire, en fait, de Lévis, avec le peu d'informations qu'il y avait, il y a quand même quelque chose où je me dis, je me dois un certain respect parce que il chôme pas.
Je suis
là.
Dans la même équipe que toi.
Puis c'est intéressant parce que effectivement, la grosse part de responsabilité revient à Gilles Laulier. Et depuis le début, il est un peu prudent sur la critique qu'il fait de l'ancienne administration. Aujourd'hui, il a été un peu plus critique envers Gilles Laulier, justement.
Bien, je vous dirais qu'ultimement, dans toute administration municipale, les stratégies relèvent du conseil du maire et du conseil municipal. Donc, la situation qu'on vit actuellement, bien, c'est effectivement, nous, on arrive au mois de janvier, c'est le résultat d'une croissance importante et manifestement, la planification n'a pas été au rendez-vous.
À mon tour de me porter à la défense de Stephen Blainey, il n'y a pas le choix de marcher sur des œufs dans ce dossier-là, parce que s'il dit « Gilles Laulier, c'est un pas bon, il nous a mis dans la marde, puis là, je veux pas faire de mauvais jeu de mots », ben c'est 30 millions, 31 ben, millions ça. De dollars aux entrepreneurs, puis 6 millions au ministère de l'Environnement. Fait que ça coûte 37 millions dire que Gilles Laulier n'a pas été bon. Fait que moi aussi, si ça coûtait 37 millions à mes contribuables,
tu te garderais une chaîne.
Je chacrerais dans mon bureau après. Je l'appellerais sûrement pour lui dire qu'est-ce que tu fais là, mon cabochon. Mais devant un journaliste, je me garderais une chaîne.
Par contre, il faut préciser que Dominique Deslauriers, il est encore directeur général de la ville. Puis lui, il est depuis mai 2024.
C'est un méchant bon
il
point.
Était sous Gilles Laulier également. Puis point intéressant de Dominique Deslauriers, parce qu'on a appris ça aujourd'hui également. Radio-Canada avait mis la main sur les avis confidentiels. Lorsqu'ils l'ont sorti dans les médias. Hier, Dominique Deslauriers a envoyé une missive, une lettre à Radio-Canada, à Louise Boisvert et Olivier Lemieux pour leur demander de retirer l'article de journaux à propos des avis confidentiels qui disait que c'était 15% des eaux usées qui étaient rejetées à l'usine de Saint-Nicolas.
Fait que le bon vieux, on sait qu'on fait mal, mais on va poursuivre les journalistes au lieu de faire mieux.
Ben justement, Serge Bonin, chef de l'opposition de Lévis, a réagi justement aujourd'hui par rapport à cette information-là, en disant que, bon, la ville semble avoir des informations à cacher.
Ben, c'est assez inusité. Moi, j'ai pas vu ça. En tout cas, j'ai pas entendu parler de ça depuis 4 ans que je suis dans mon mandat. C'est la première fois que j'entends parler d'une telle demande, qu'une ville demande à un média de retirer un article, non pas parce qu'il est faux, mais parce que ce qui est là aurait pas dû se trouver dans l'espace public. Si on veut que le public ne sache pas ce qui était là-dedans, ben c'est que la ville cache des choses.
Puis, je veux dire, c'est la job point d'un journaliste d'aller porter de l'information qui était méconnue
exactement.
Du public.
Non, puis c'est très intéressant ce qu'il dit. L'information n'est pas fausse, elle est vraie.
Elle est vraie.
Elle est vraie. Puis Lévis... C'est une autre preuve que la direction générale et le cabinet de la mairie ont tenté de cacher cette information-là jusqu'à la cacher un gars comme Serge Bonin, qui était élu au conseil municipal et qui était le chef de l'opposition officielle.
Puis, je veux dire, c'est un peu ridicule. On dit aux journalistes, hey, c'est de l'information privée, c'est un avis confidentiel. Faut pas que ça se retrouve dans les médias. Non, mais c'est parce que le journaliste n'a pas cette responsabilité-là envers cet avis confidentiel-là. Lui, sa responsabilité, c'est envers les citoyens. C'est justement s'il y a de l'information compromettante puis qu'il réussit à mettre la main dessus. Mais lui, son travail, c'est de la fournir à la population.
Ils le savent.
C'est exactement ce qu'ils ont fait.
Ils le savent, même s'ils demandent d'enlever ça. Ils le savent clairement. Puis il faut protéger justement cette liberté-là de sortir de l'information. Il ne faut pas se laisser avoir quand on nous demande de retirer des choses. Il y a des gens au 88-971-1021 qui commentent et entre autres, quelqu'un qui dit « Et l'ancien maire va avoir sa prime de départ ». Il y en a qui trouvent ça un peu déplorable, je pense, à ce niveau-là. Là.
Bien, surtout dans l'état qu'a laissé la ville, il a développé, puis justement, le chef de l'opposition présentement demande une enquête externe pour comprendre qu'est-ce qui nous a mené à ça, des permis de construction qui ont été octroyés sans cesse, un développement qui a été extrêmement rapide pendant que nos usines de traitement d'eau, ben, on le voit aujourd'hui, puis on le voit depuis quelques années du côté de la ville, ne font tout simplement plus de travail.
Mathias Turcotte, encore un excellent travail, mon ami, sur le terrain. Tu es une ressource précieuse pour Boulevard 102.1. Continue à aller questionner les politiciens, même si tu n'as pas de réponse, comme Stephen Blainey t'en a donné aujourd'hui. 15%, c'est trop théorique, ça, 15%. Ça fonctionne pas.
On en jase. Jusqu'à 14h, on en jase.
Et Pascal, c'est pas terminé parce que Stephen Blainey vient de sortir. Coudonc, Monsieur Blainey paye des taxes aussi.
Oui, mais je pense qu'il est un peu fatigué que les gens comprennent pas son travail actuellement. Puis une des citations qui ressort du point de presse où Mathias est allé, c'est hey, « Moi aussi, j'en paye des taxes à Lévis. »
Ben oui.
C'est « Oubliez pas, là. »
Non, n'oublie pas ça. Mais vous avez la responsabilité aussi en tant que maire de trouver des pistes de solutions, même si c'est l'ancien maire qui a tout foiré pour M. Blainey. Ah, M. Gilles Lehoulier qui se pensait tellement un maire intouchable.
Mais tu sais, des fois, tu vois d'anciens politiciens commenter le travail de certains qui sont encore en poste. Puis Régis Labeaume l'avait fait dans une émission de télévision quand on lui avait posé la question. Puis même lors des dernières élections, tu sais, il disait, je veux pas être la belle-mère puis commencer à jaser, mais... Aussitôt, il continue puis il commence.
C'est ça, exactement.
Puis c'était un des points. Il avait l'air un peu... puis il était en chicane à la fin avec M. Lehoulier quand même de son mandat là, à la Ville de Québec. Mais il avait l'air très critique à l'endroit de Gilles Lehoulier. Est-ce qu'il a vu, il a su, il jasait... Puis il voyait un peu que bien que ça se développait comme le 10-30, Lévis puis la Rive-Sud... Même si bien des gens disaient « Wow, il change tellement d'affaires, il nous met sur la map à Lévis », peut-être que Régis Labeaume voyait ce qu'en arrière ne suivait pas.
Ah, exactement. Puis c'est toujours le problème des municipalités ou encore des pays, des provinces. Lorsqu'on met au pouvoir quelqu'un avec un trop haut pourcentage de vote, bien, cette personne-là se pense tout permis. Ça brasse énormément en immigration au Québec avec le programme d'expérience Québec qui a été coupé et remplacé par le programme pour les travailleurs spécialisés qualifiés. Mais là, ça rebondit jusqu'à Ottawa, alors que Pierre Paulus, député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles et lieutenant du Québec pour le Parti conservateur du Canada, réclame la démission de la ministre Léna Diab. Ça va bien parce qu'on a M. Paulus en ligne à l'heure actuelle. M. Paulus, comment allez-vous?
Ça va très bien, merci.
Monsieur Paulus, pourquoi réclamez-vous la démission de la ministre de l'Immigration du Canada?
Par vraiment par pure incompétence. Honnêtement, notre semaine a commencé, nous autres à Ottawa, avec une motion d'opposition. On avait une journée de débat lundi sur le programme fédéral de santé intérimaire, des subventions de l'argent qui va pour la santé des demandeurs d'asile qui sont déboutés. On est rendu à près d'un milliard par année, puis ça fonctionne pas du tout. On a poussé le gouvernement là-dessus. Puis en même temps, hier, par hasard, il y a un article de Radio-Canada qui sort qui démontre que les 10 députés libéraux sont pleins à Radio-Canada, que leur ministre ne connaissait pas son dossier, elle ne connaît rien, elle n'a pas d'idée comment c'est la structure, les chiffres, les données, les organismes également qui font affaire avec le ministre de l'Immigration fédérale n'ont aucune communication. Donc, tout ça ensemble, on dit OK. Là, ils se dépensent des milliards tout croche d'un côté. De l'autre côté, on apprend que même les libéraux disent que c'est assez de cette ministre-là. Donc, hier, nous autres, on a dit, regardez, 1+1, là, ça fait 2. Là. Je pense que ce dossier-là est tellement important. Là. Puis c'est tellement problématique au Canada, la gestion de l'immigration. C'est depuis 10 ans, c'est une folie. Là, en ressources humaines mal gérées, en immigrants eux-mêmes qui ont des problèmes à nos bureaux de comté, on reçoit des gens tous les jours qui viennent nous voir parce qu'il y a des problèmes de renouvellement de permis, tout est en retard. Puis là, tu as une ministre, sa responsabilité première, c'est de voir à ça. Puis elle nous répond à la paire de questions. Alors, vous savez, c'est difficile ce travail-là. Écoute, madame, là, vous n'avez pas les compétences pour faire le travail. Faites d'autres choses. Là. Vous n'êtes pas obligé de mettre les immigrations, c'est trop dur pour vous. Là.
On a aussi appris par Radio-Canada qu'il y avait énormément de dossiers de demandeurs d'asile qui avaient été acceptés sans enquête, sans entrevue avec ces gens-là. Est-ce que vous avez une crainte pour la sécurité des Canadiens et Canadiennes?
Mais oui. Puis ça, j'ai travaillé longtemps. Moi, j'étais pas parole de sécurité publique pendant 3 ans dans les grandes années du chemin Roxham. Puis j'étais allé 3 fois là-bas. Puis on avait des questions là-dessus. Puis on nous confirmait à l'époque, inquiétez-vous pas, chaque personne qui rentre, on fait une vérification. Parce qu'il faut savoir qu'il y en a plusieurs qui rentrent qui n'ont même pas de papier. Ils jetaient leurs papiers dans les fossés du côté américain pour arriver au Canada avec rien. Fait qu'il y avait un travail de recherche à faire pour identifier c'était qui ces personnes-là. Puis il y en a qui étaient même arrêtés à l'époque parce qu'on découvrait, s'ils avaient gardé leur téléphone cellulaire, on découvrait même qu'il y avait des amateurs de pornographie juvénile puis ou des criminels. Bon, Mais là, d'apprendre que finalement, ce processus-là ne s'est pas fait pour 25 000 personnes. Fait que 25 000 personnes sont arrivées au pays, ils ont demandé l'asile, puis il n'y a personne qui les a rencontrés. Et puis, là, ils ont fini par avoir une autorisation de rester ici, puis de se faire dire, bon, bienvenue au Canada, sans savoir qui sont ces gens-là. Ça ne fonctionne vraiment pas. Puis je comprends que le gouvernement peut avoir été débordé, parce qu'on a on est rendu juste au Québec, il y a 200 000 personnes qui sont des demandeurs d'asile, qui sont actuellement sur notre territoire en attente de décision dans leur dossier. Mais là, que t'en arrives 25 000, c'est du monde, là, 25 000. Là. On remplit le stade de le stade de Vidéotron, là, il n'y a même pas 25 000 places dedans quand il est plein. Là. Vous comprenez que c'est beaucoup de monde qu'on n'a pas d'idée qui sont vraiment. C'est qui ces gens-là, probablement qu'on a leur nom, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait dans la vie, pourquoi ils demandent l'asile, puis pourquoi surtout qu'on leur a donné l'autorisation de rester au pays sans savoir vraiment c'est quoi leur histoire. Parce que c'est sûr, quand tu fais une demande d'asile en premier, hein, tu dois compter ton histoire, d'où tu viens, pourquoi tu es en danger, qu'est-ce qui fait que tu peux pas rester dans ton pays. Ces questions-là sont importantes pour déterminer si on mérite d'avoir l'asile au Canada. Puis ça, ça n'a pas été fait. Puis à travers ça, bien évidemment, des criminels, on sait qu'à l'époque, il y avait même des gens du MS-13, des groupes de criminels mexicains qui sont rentrés au Canada de cette façon-là, qui étaient à Montréal, entre autres.
C'est là, M. Paulus, où c'est un peu dérangeant au niveau de la crédibilité du pays par rapport à cette immigration-là, parce que si on veut être un pays fort, assurément, l'immigration, on en a besoin. On a envie aussi d'être un pays, somme toute, pacifiste, être capable d'être social aussi, avec des mesures qui sont sociales. Mais c'est pas discriminatoire de demander l'histoire à la personne. En plus, ça peut orienter cette personne-là vers des soins et des services qui vont être appropriés. Par contre, le fait qu'on soit une passoire, quand vous dites « oui, il y avait beaucoup de choses à gérer », est-ce qu'on peut ajouter le fait que le fait de demander, le fait de contrôler, bien qu'on accueille ces demandeurs-là d'asile ou quoi que ce soit, va juste permettre une meilleure économie, une meilleure direction vers le travail, une meilleure intégration pour ces gens-là aussi au pays? Peut-être que c'est là où, des fois, on vient trop sensible à parler de ce sujet-là, puis ceux, finalement, qui prennent la porte quand il y en a trop, comme au Québec, on voit aussi avec la fin du programme PEC, c'est des gens qui auraient dû rester.
Ben, effectivement, c'est là que, lorsqu'on mentionne que la gestion de l'immigration au Canada depuis 10 ans, c'est un bordel monumental, ça fait partie de ça. La gestion de l'immigration, à l'époque, était très bien faite. On avait des critères, on savait combien d'immigrants on avait besoin au niveau économique, on avait même des réunifications familiales et des réfugiés.
Sous quel ministre vous avez été impressionné?
Au fédéral, il n'y a pas aucun ministre d'immigration qui m'a impressionné. Puis celle qui est en place, honnêtement, elle n'a aucune compétence pour ça. Puis c'est pas personnel, c'est professionnel, là, ces propos-là. Là. Mais Mark Miller, qui était là, Mark Miller a beaucoup de caractère. Par contre, a pris une décision complètement ridicule. Lorsque le Québec se plaignait qu'il y avait trop de temporaires sur le territoire, Mark Miller a dit « OK, il a pris une décision radicale de couper à 10 % maximum les travailleurs étrangers temporaires. » Ça crée un problème actuellement massif dans les entreprises en région. Ça, c'est une décision unilatérale, fédérale, juste en réaction aux demandes de Québec.
Mais justement, parlant de ça, du fameux 10 %, là, c'est ce qui cause la problématique présentement avec le changement de programme au Québec. Jean-François Roberge demande à la ministre Diab, puis là, il a interprété Mélanie Joly aussi hier, de donner des permis de travail temporaires pour qu'ils puissent se qualifier dans le nouveau programme. Donc, est-ce que c'est vraiment la faute du Canada, ce qui se passe présentement au Québec, ou la CAQ a des responsabilités aussi?
Bien, la CAQ a dû vivre avec le problème d'avoir 600 000 personnes sur le territoire qui ont des permis temporaires. Donc, il y a eu 200 000 là-dessus, c'est des demandeurs d'asile. Donc, un impact massif pour les services publics, les écoles, les services de santé, etc. Après ça, des travailleurs étrangers temporaires, c'est une chose, mais les étudiants également, il y a eu beaucoup de faux étudiants ou des gens qui viennent ici sur des permis temporaires, mais qui finalement vont même pas à l'école. Donc, ça, ce bordel-là, a été accepté par Ottawa, n'a pas été contrôlé adéquatement par Ottawa. Donc, Québec s'est ramassé avec le problème. C'est pour ça que Québec a dit à un moment donné, écoutez, là, il y a trop de personnes sur le territoire québécois pour les ressources qu'on a. Donc, ça, on a un problème. Mais au lieu d'avoir une gestion plus efficace à Ottawa, Mark Miller a pris une décision drastique, a coupé à des endroits où c'était la dernière place à couper. Donc, le 10 % pour les entreprises, c'est pas là le problème. Et on a pas voulu gérer, justement, les fameux demandeurs d'asile, parce qu'il faut savoir, actuellement, il y a, dans les centaines de milliers qu'on a à travers le pays, il y en a 86 000 qui ont été refusés d'asile au pays. Donc, ça, c'est des gens qui ont été évalués, puis qui ont dit, ben non, écoute, tu viens pas d'un pays qui a du danger pour toi, on refuse l'asile. Ils sont encore au Canada. Ils bénéficient encore des programmes sociaux, de santé, etc. Fait que c'est cette problématique-là que le fédéral ne répond pas adéquatement aux questions et ne prend pas les mesures efficaces. À un moment donné, il y a quelques années, quand on voyait ça, on se disait, faites une équipe là, de choc de l'immigration, mettez tout le monde vraiment au travail pour accélérer les processus, puis let's go. Puis quand les gens sont refusés d'asile, ben malheureusement, vous devez quitter le pays. Là, vous n'êtes pas d'accord ici, surtout sur les programmes sociaux. Là.
C'est peut-être pour ça, si on le fait pas, que la problématique de la criminalité, quand c'est le temps, parce que là, on parle, par exemple, de ceux qui ne devraient pas être au sein du pays selon leur CV, tiens, leur curriculum vitae. Puis en passant, je déteste qu'on fasse une généralité et je déteste aussi qu'on soit dans les stéréotypes. Mais il y a quand même cette crédibilité-là au nom du pays qu'on doit aller rechercher, pas être ce que les États-Unis sont, on s'entend.
Non, c'est mais, ça.
Mais c'est là où la sensibilité aussi de la conversation nuit, je pense.
Ben effectivement, c'est toujours délicat. À chaque fois qu'on parle d'immigration, souvent le drapeau raciste apparaît. C'est moindrement qu'on parle de gestion d'immigration, on se fait boucher, on se fait fermer de clapet.
Ouais, on se fait traiter d'intolérant.
Mais ça, c'est entre parties.
De racisme. Moi, j'ai eu droit à ça, là, parce qu'on posait des questions dans le temps sur Roxham. Puis le Justin Trudeau, à l'époque, lui-même, dans la Chambre des communes, m'a dit que j'étais raciste. Mais c'est parce que là, je faisais pas de distinction sur la race. Moi, c'est une gestion de frontières tout simplement normale. On doit être plus efficace en gestion de ce qui se passe sur nos frontières. Il n'y a pas de racisme là-dedans. J'ai eu la même version quand on demandait d'arrêter les avions qui venaient de la Chine dans le temps de début de la COVID. J'ai dit qu'il faut arrêter les avions qui arrivent de Chine. Le virus arrivait de Chine. On me traitait de raciste parce que je parlais d'un avion avec des Chinois. Mais ça n'avait rien à voir. C'est que le virus venait de là. Il serait venu d'un autre pays. J'aurais dit la même chose au pays.
Peux-tu vous poser une question?
Oui.
Qui va être un peu champ gauche. Parce que entre partis, que vous soyez de l'opposition, vous soyez en poste et tout ça, on parlait de ça, Jean-François et moi, en pause récemment, mais il y a comme une facilité de vouloir se piquer. Hein. C'est un peu ça le jeu politique. On est à l'opposition, on pique l'autre parti. On veut habituellement, le travail d'équipe est un peu mieux accepté à ce niveau-là, mais c'est un peu des chiens de garde, le rôle de l'opposition. Cependant, sur des sujets aussi délicats que l'immigration, il n'y aurait pas un peu de maintenance, d'intelligence politique à appliquer, de pas venir juste critiquer pour critiquer, faire un rôle d'opposition sur des sujets aussi sensibles que l'immigration, parce que peu importe le parti qui se retrouve au pouvoir, au moment où ils auront besoin, parce qu'ils auront toujours besoin d'en parler, puis de peut-être mettre des lois, puis de peut-être ajuster des choses, il y aura l'opposition pour chialer, les critiquer de racistes, etc. Si c'en est un vrai cas de racisme, si c'est un vrai cas de généralité, de stéréotype, parfait. On va être aussi capables, citoyens, les gens qui commandent dans les médias, d'appliquer peut-être un discours en puis de faire un peu brasser les choses. Mais c'est pas un respect citoyen aussi de pas bloquer des discussions essentielles, mais juger sensibles par, justement, des attaques qui font pas de sens?
Oui, mais est-ce que nos attaques font pas de sens? C'est ça, ce qu'il faut voir, là, c'est que nous, ce qu'on soulève, puis ça fait des années, c'est une mauvaise gestion. Donc, où on en est, c'est les personnes en charge, lorsqu'on nomme un ou une ministre en poste, cette personne-là a une responsabilité de gérer un ministère et le ministère de l'immigration est très complexe. Donc,
mais mon point était global, sur la politique en général.
Ben, de façon globale, l'opposition, son travail, c'est de voir... Oui, on passe souvent pour des chialeux, mais en même temps, on soulève des enjeux où il y a des problématiques, où on peut proposer des solutions, mais souvent, on peut se retourner virer de bord en bon français, mais notre action, elle va dans le sens de dire, on vit des problèmes, est-ce qu'on peut mettre des solutions en place. Et là, quand le gouvernement ne répond pas à ça ou revire du revers de la main nos demandes, c'est sûr que là, la tension monte. Mais il reste que, quand on parle d'immigration, par exemple, l'immigrant est toujours le plus grand perdant dans ces discussions-là. Parce qu'il y a des immigrants qui viennent au pays avec des attentes d'être bien reçus, de bien vivre, d'avoir une nouvelle vie. Puis ça, on est d'accord avec ça. Mais lorsque il y a une mauvaise gestion, puis qu'est-ce que vous voulez actuellement? Là, c'est le gouvernement en place, ça fait 10 ans qu'il gère ça tout croche. Ben, notre devoir, c'est de le soulever puis de demander d'être meilleur. C'est ce qu'on demande. Mais c'est difficile d'avoir ces conversations-là.
Ouais.
Parce qu'effectivement, les débats, surtout, mettons, à la Chambre des communes, c'est sûr que c'est des questions de 30 secondes avec des réponses de 30 secondes. Il reste que du travail en comité qui se fait. Mais ça, le travail de comité n'est pas vu peur à la population. Les médias couvrent de temps en temps quand il y a des sujets chauds, justement, mais quand c'est du travail vraiment là professionnel, de questions à des fonctionnaires, à des ministres, à des témoins, ce travail-là, on le voit pas. Mais il y a du travail qui se fait par les partis d'opposition, tout parti
confondu. Non, en effet, mais là, malheureusement, la ministre Léna Diab ne fait vraiment pas le travail. On va souhaiter que votre demande soit entendue par le Parti libéral du Canada.
N'oubliez pas que ça vient des libéraux, c'est les libéraux qui soulèvent que leur ministre n'est pas compétent.
En effet. Merci beaucoup, M. Paulus, pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui à l'émission Dans Jase. On vous souhaite un excellent après-midi. On se reparle bientôt.
Bye-bye, merci.
Merci. Pierre Paulus, député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles et lieutenant du Québec pour le Parti conservateur du Canada, qui nous explique les problématiques au niveau de l'immigration au Canada. C'est pas juste au Québec qu'il y en a. Puis cet amalgame-là fait en sorte que présentement, bien, il y a des honnêtes citoyens ici à Québec qui ont un emploi, qui vont devoir partir. Oui. Puis il y a des demandeurs d'asile qui entrent sans entrevue. Puis il y a une ministre fédérale qui est tout mêlée là-dedans.
C'est incroyable quand même. Je me demande comment est-ce qu'on se rend là, parce que c'est difficilement défendable, on s'entend. Puis tu sais, c'est des projets de société qui sont décimés. On parle de la santé, on parle de l'éducation, qui vont perdre de la main-d'œuvre importante
en plein
qui s'est implantée. C'est un peu triste.
Yes. Circulation, Pascal?
Oui, on avait des incidents. Donc, on avait un sur l'autoroute 20 Est, hauteur route 116 à Saint-Nicolas. La voie droite qui était bloquée, entravée. Il y avait une panne. Et il y en avait un autre, Jeff, du côté de Laurentienne Nord, sur la hauteur de la rue Soumande. Il y avait des débris. Heureusement, c'est terminé, mais ça a quand même un peu ralenti les secteurs.
Merci beaucoup pour les informations. 418-971-1021, si jamais vous constatez quelque chose sur la route. Rémi Villemur est avec nous dans un instant. On va parler de ce retrait des signes religieux dans nos écoles qui font en sorte que plusieurs personnes qui quittent leur emploi. Évidemment, Québec solidaire et le Parti libéral ont leur opinion. Parti québécois et la CAQ ont la leur. On va entendre celle de Rémi Villemur. Et Bernard Drainville qui s'attaque à la natalité. Ouf! Est-ce qu'il met le pied dans un panier de crabes? C'est ce que Rémi Villemur nous explique dans un instant à Boulevard 102.1, l'émission Dans Jase.
Boulevard 102.1 avec Jeff Fortin et Pascal Cévé.
On est tellement content d'être avec vous et on est content que vous soyez là à Boulevard 101 pour l'émission On en jase, son résumé parfait de l'actualité de midi à 14h sur les ondes de Boulevard 102.1. N'hésitez jamais à donner votre opinion. 418-971-1021 par texto. On parle d'impudabilité du côté des gens responsables, de nos gestionnaires qui sont parfois incompétents, comme Gilles Laulier avec le traitement des eaux. Venez nous voir sur twitch.tv/BLVD/FM et surtout téléchargez notre application BLVD 101 sur App Store, Google Play Store. C'est la meilleure façon de nous écouter. Avant de parler laïcité, signes religieux, des sujets qui ne laissent personne indifférent, Pascal, qu'est-ce qu'on doit retenir dans l'actualité?
L'interdiction par effraction dans le secteur de Charlebourg, eh bien, deux suspects qui ont été arrêtés. Là, je vous parle des suspects qui étaient de façon importante recherchés récemment parce que dans la nuit dernière, il y a eu un immeuble commercial du boulevard de l'Atrium qui a été vandalisé et volé. Mais un des deux individus qui a été arrêté, mais a été transporté dans un centre hospitalier. Il avait des blessures. Le salut nazi à l'Hôtel de Ville de Québec coûte actuellement 52 400 $ pour la défense de Bruno Marchand. Ça, c'est dans le dossier de Vicky Lépine. C'est un mandat qui a été confié par la Ville de Québec à la firme d'avocats BCF. Sinon, Hillary Clinton, qui témoignait à huis clos aujourd'hui du côté des États-Unis, demande que Donald Trump ait la même opportunité, disons-le comme ça, d'aller témoigner sous serment. Donc, c'est dans la commission d'enquête sur l'affaire Epstein pour elle. Elle ne comprend pas pourquoi Donald Trump n'est pas entendu. On réclame qu'il le soit sur ses propres liens avec le criminel sexuel. 50 policiers qui sont mobilisés depuis le début de la journée. Il y a une frappe importante contre le BFM à Montmagny. Le RTC veut rendre sa desserte du Vieux-Québec plus efficace, bien sûr en raison des travaux qui s'en viennent et du fait qu'il y aura beaucoup de routes qui seront bloquées, qui seront redirigées. L'autoroute 20 à Lévis, vous savez, il y a eu un accident, collision entre une voiture qui était à contresens et une ambulance dans les dernières heures. Et là, il y a un mort et deux ambulanciers blessés dans cette collision frontale.
Soyez prudents sur les routes, bien évidemment. Signes religieux, laïcité, à chaque fois qu'on en parle, le 418-971-1021 est inondé de messages. Et on va justement commencer avec ce sujet pour notre chronique. Avec Rémi Villemur, animateur au 99.5 Montréal. Vous pouvez l'entendre les mardis et jeudis dans notre émission aux alentours de 13h05-13h10. Rémi, comment vas-tu?
Je vais très bien, vous deux.
Ah, ça va super bien. Rémi, je te propose qu'on commence la chronique en entendant deux montages. Le premier montage, Ruba Gazal et Madoua Nika Cadet. Ruba Gazal de Québec solidaire et Madoua Nika Cadet du Parti libéral du Québec qui déchirent leur chemise parce que on va empêcher les gens d'avoir des signes religieux dans nos écoles, nos enseignants et nos techniciens en service de garde. Et Catherine Gentilcar et Jean-François Roberge qui expliquent pourquoi cette règle-là est la bonne. On se ramène au 19 mars 2025 que ce projet de loi-là a été adopté. C'est des réactions de ce matin à l'Assemblée nationale.
C'est pas aux élèves du Québec de payer le prix de la mauvaise gestion de nos finances publiques, de la CAQ. Et là, ils ajoutent ça pour dire qu'ils veulent régler le problème de la laïcité. Il n'y en a pas de problème, là. C'est assez.
Cette situation est absolument inacceptable. Le gouvernement, ça fait 8 ans qu'il nous dit que pour eux, l'éducation, c'est la priorité des priorités. Puis ce qu'on voit, là, pour le réseau, la grande priorité, bien, c'est la pénurie de main-d'œuvre.
C'est très clair qu'à partir du moment où la loi était déposée, bien, toutes les nouvelles embauches qui allaient avoir lieu allaient devoir se conformer aux nouveaux éléments de la loi.
L'information avait été dûment transmise aux directions générales des centres de services scolaires. Puis je pense que les Québécois s'attendent à ce que les enfants reçoivent des services laïcs.
Rémi, le 19 mars 2025, Jean-François Roberge a fait adopter son projet de loi et il a dit à compter du 1er mars 2026, ça va être fini les signes religieux. Et là, le 27 février, on crie au scandale du côté de Ruba Gazal et Madoua Nika Cadet. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
J'en pense que tu es très bon pour prédire l'avenir parce qu'on est le 26, puis tu dis que le 27, le monde va s'insurger.
Je me suis trompé, ils ont fait ça un jour à l'avance.
Je te taquine. Écoute, parmi les gens qu'on vient d'entendre, je pense que Catherine Gentilcar vise le plus dans le mille, dans la mesure où, premièrement, elle représente un parti d'opposition. C'est bien la preuve que ce n'est pas le projet de la CAQ, comme vient de le dire Ruba Gazal. C'est d'ailleurs un projet, la laïcité, loi 21 et autres tangentes, qui fait toujours, près de 10 ans plus tard, parce que la loi 21, on parle de l'année 2019, son adoption, c'est un projet de loi qui fait pas mal l'unanimité. C'est rare, ça, des affaires qui font l'unanimité, presque l'unanimité, j'en parle, je parle qu'il y a un consensus, excusez-moi, là, mais il y a une majorité de Québécois qui sont derrière ça. Il n'y a pas d'unanimité, effectivement, mais même les libéraux de Pablo Rodriguez disait que c'était un projet, la loi 21 avait garanti une bonne cohésion sociale. Donc, si ça fait 10 ans et presque que cette loi-là, cette façon de concevoir la laïcité fait l'affaire des Québécois, il va peut-être falloir l'accepter. Mais quand je dis Catherine Gentilcar, c'est le propos le plus intéressant qu'on vient d'entendre. Au-delà du fait qu'elle représente un parti qui n'est pas le parti qui a proposé cette loi-là, elle vient nous dire quoi? Elle vient nous dire, écoutez, on s'était dit dans la loi que désormais, si vous vouliez enseigner, si vous vouliez occuper certains rôles dans certains environnements de travail, bien, il faudrait vous plier à cette exigence-là. Donc moi, j'invite les gens à regarder vers ceux qui ne se plient pas, plutôt que vers la mesure. Parce que je regrette, mais au début, quand on a commencé à parler de la loi 21, il y avait toutes sortes de communautés religieuses qui s'opposaient. Mm-hmm. On avait la communauté juive, on avait des certaines associations de communautés catholiques, on avait évidemment la communauté musulmane. Et aujourd'hui, qui s'entête à ne pas se plier à la loi? Je ne veux pas faire de stigmatisation, mais j'entends plus les juifs dire ça. J'entends plus vraiment d'associations catholiques dire ça. Donc, à un moment donné, il est là le cœur du problème. C'est qu'il y a certaines personnes dans certaines communautés qui refusent de se plier à une loi qui fait l'affaire des Québécois. Il est là le problème.
Et Rémi,
le problème n'est pas ailleurs.
Oui, et Rémi, il y a un autre problème, c'est le laxisme des dirigeants des centres de services scolaires. Et je m'explique. Là, on demande, ouais, mais faites la clause grand-père jusqu'au 30 octobre 2025. Pourquoi? Parce que quand on a embauché du nouveau personnel cet automne pour la rentrée scolaire, on a omis de leur mentionner qu'à compter du 1er mars, ce serait la loi pour avoir du personnel. C'est ça qui est arrivé aussi comme problématique.
Oui, bien ça, c'est un bon point que tu apportes. Il y a peut-être eu certaines maladresses. Moi, je ne suis pas cruel là, si on a effectivement dit à des gens que ça marchait comme ça, puis qu'ils se sont engagés, puis que maintenant on leur dit que ça ne marche plus comme ça. Il y a peut-être moyen d'aménager le tout. Mais le vrai sujet, c'est surtout l'esprit de la loi. Puis est-ce que tout le monde va finir par s'y acclimater? Dans le Québec d'aujourd'hui, la religion est un détail. C'est un fait, ça. Pour la grande majorité des Québécois, c'est un truc qu'on célèbre à la maison, avec des amis, avec la famille, dans des lieux de culte. Il nous arrive, certaines fois dans l'année, de devoir, je pense par exemple au Ramadan, de devoir peut-être demander des accommodements. Il y a des cas où je pense qu'on ne devrait pas les faire. Je pense aux enfants dans les écoles. Moi, j'ai enseigné dans des écoles, puis il y a des enfants qui ne mangeaient pas. Moi, je ne déplaçais pas mes dates d'examen. Je regrette, là, mais je veux dire, on est au Québec ici, on n'est pas au Maroc. Là. Mm-hmm. Donc, je ne déplaçais pas mes dates d'examen. Mais là, le problème, c'est qu'on a des gens peut-être pour qui c'est plus important la religion qu'un travail. Je lis beaucoup ça là, dans les manchettes des femmes de confession musulmane qui disent « Je dois choisir entre mon travail et ma religion. » Ben non, on ne t'a pas demandé ça. On t'a demandé d'enlever ton signe religieux quand tu arrives au travail. Il y a des gens qui portent des kippas et qui l'enlèvent. Il y a des gens qui portent des croix catholiques et qui l'enlèvent. Tout le monde devrait être capable de faire ce petit sacrifice-là. Et s'il y a des gens qui ne sont pas capables de le faire, ben, il est là le sujet. C'est pourquoi certaines personnes de certaines communautés ne sont pas prêtes à aller là. Ah, ben peut-être qu'effectivement, il y a l'intégration n'est pas un objectif qui a été atteint de la même façon. Peut-être qu'il n'y a pas un véritable désir d'intégration totale au Québec. Hein? C'est peut-être ça aussi.
Mais je pense que c'est la question la plus importante, ça. Pourquoi il y en a qui refusent de se conformer? Puis à partir de ce moment-là, même si certains décident de quitter leur emploi au début pour peut-être manifester, contester cette loi-là, elle ne s'applique pas à un groupe en particulier, tu l'as très bien décrit, elle s'applique à tout le monde. Ils vont avoir besoin de revenir sur le marché du travail de toute manière, puis j'ai l'impression que les choses vont se placer comme de fait, comme elles devraient se placer. Puis je trouve ça triste qu'on ne puisse pas le dire sans avoir l'air raciste ou sans avoir l'air de manquer de sensibilité dans ce dossier-là. Puis je pense que ce serait la première étape pour pouvoir avoir encore plus de discussions sur comment est-ce qu'on souhaite que ça se passe au pays et qu'on ait une certaine cohésion au niveau de grands enjeux comme, entre autres, celui de la religion que nous-mêmes, on a décidé de frapper à grands coups 2x4 il y a quelques années là-dedans parce qu'il y avait des débordements, puis on changeait, puis on se modernisait.
Mais Pascal, tu vises en plein dans le mille. Je veux dire, moi, honnêtement, ce sujet-là, je préfère ne pas le traiter. On marche sur des œufs. On fait attention à ce qu'on dit, on heurte parfois des gens quand on parle de ça, sauf que la raison pour laquelle on en parle et qu'on prend à chaque fois le risque de sonner comme raciste, quand on prend la position qu'on semble prendre les trois, en tout cas que moi je prends très fièrement, bien c'est parce qu'il y a des gens qui refusent de se plier à la volonté populaire. À un moment donné, on appelle ça ne pas respecter la loi. Ceux qui s'entêtent à le porter et ceux qui décident de s'en aller, parce qu'en faisant valoir le chantage émotif, OK, je me demandais de choisir ci, choisir ça, c'est peut-être aussi un peu de notre faute. Je lisais ce matin certaines manchettes, je pense à un article de la presse, là, je vous lis le titre. Des travailleuses du soutien scolaire perdent leur emploi à cause de leur voix.
Ouais, j'ai vu ça.
Non, mais non, c'est pas ça qui se passe. Le titre de l'article serait un petit peu plus long, mais ça devrait être « Des travailleuses perdent leur emploi parce que contrairement aux autres employés qui retirent sans problème leur signe religieux, elles tiennent, elles, à le conserver. »
Rémi,
un petit peu moins hot comme titre, mais la vérité, elle réside dans ce titre-là.
Rémi, j'aime toujours qu'on parle de ce sujet-là parce qu'au 418-971-1021, on a toujours des textos très intéressants. Ici, j'ai une auditrice ou un auditeur qui nous écrit que c'est faux ce qu'on dit parce que la liberté de religion n'existe plus si on ne peut plus prendre ce droit en considération compte tenu des spécificités de chacun. Je dois me mettre en désaccord avec l'auditeur et l'auditrice parce que la liberté de religion existe. Tu peux la faire à la maison, tu peux la faire dans des temples qui sont réservés à ta religion. C'est juste qu'on te demande qu'en situation d'autorité, lorsque tu travailles pour l'État qui est laïque, tu ne dois pas porter tes signes religieux. Est-ce que j'ai faux?
Bien, je vais quand même spécifier que l'auditeur a un point, même si je me range derrière le tien. Jean-François, c'est-à-dire qu'il y a une interprétation en ce moment du droit à la religion, de la liberté de religion, qui est sujette à un débat. Donc, il y a des gens qui disent que cette liberté-là, elle est sans fin, elle est sans contrainte, elle est sans condition. Puis il y a des gens qui disent non, au contraire. Il y a des droits collectifs aussi qui font en sorte que la liberté de religion ne peut pas entrer par-dessus. Donc, il y a deux interprétations. Moi, je me range plutôt derrière celle voulant que je permets à des gens de vivre leur religion. Je veux dire, je demande pas à ce que les gens enlèvent leur voile dans la rue ou leur signe religieux dans la rue. Je veux pas rentrer dans les maisons. Je veux pas rentrer dans les synagogues, dans les mosquées et dans les églises. Mais dans des lieux comme les écoles, des lieux de pouvoir de l'État, ben moi, j'estime qu'on devrait aller dans un sens qui fait l'affaire de la majorité. C'est jamais inutile de le rappeler.
Rémi, on passe au deuxième sujet qui est le taux de natalité. Bernard Drainville s'attaque au taux de natalité. Je vais permettre jusqu'à 3 essais de fécondité gratuits pour les gens. Est-ce qu'à chaque fois qu'on parle du taux de natalité, on met le pied dans un panier de crabes parce qu'on va se faire dire qu'on n'est pas pour que les femmes soient égales à l'homme?
C'est un risque qu'il prend, Bernard Drainville, que je salue, soit dit en passant, parce que c'est un vrai enjeu de société, la natalité. Sans la natalité, il n'y a pas la vie. Hein? Et la vie, c'est mieux que la mort, on est d'accord? Donc, je pense que c'est un vrai sujet politique. Il y a un ministère de la famille. Il y a des politiques publiques qui sont des politiques, sans dire de natalité, mais qui visent à favoriser la natalité. S'il n'y en avait pas, on pourrait véritablement dire que ce n'est pas un enjeu politique, mais c'en est un. Bernard Drinville essaie de réussir là où Lucien Bouchard n'a pas réussi. On se rappelle, Lucien Bouchard, dans les années 90, avait essayé d'en parler. Il s'était fait lancer des tomates. « Hey, le vieux, t'essayes de ramener les femmes au fourneau. » Ben, écoutez, je ne pense pas du tout que c'était son intention. Le taux de natalité du Québec, 25 ans plus tard, est à 1,33. Ce n'est pas suffisant. Le taux, je pense qu'il faudrait atteindre pour qu'il y ait un cycle normal de revitalisation, c'est 2,1, je pense, ou 2, ça serait déjà bien. Donc oui, il y a manière d'en parler, il y a plein de bonnes idées qu'on peut mettre sur la table. Après, j'entends parfois parler de la Hongrie, là, qui, par exemple, je pense aux femmes qui ont 3 enfants, leur disent « vous ne paierez plus jamais d'impôts » ou « on vous paye la voiture de 5 places, la fourgonnette », ça ne semble pas fonctionner parce qu'au fond, une société qui ne fait plus d'enfants, ben, c'est une société qui ne s'aime plus parce que pour faire des enfants, il faut s'aimer, il faut faire l'amour. Hein? Donc, c'est à peine philosophique ce que je lance dans les airs en ce moment. Okay?
J'avoue qu'avec ChatGPT, c'est un peu plus tough, là.
Oui, avec ChatGPT, c'est un peu plus tough, mais je veux dire, les jeunes font moins l'amour qu'avant. Les gens ont des enfants de plus en plus tard. Ça aussi, c'est un cas, puis c'est le cas pour les hommes et les femmes. Moi, autour de moi, des pères de mon âge, il y en a très peu. Parce que l'âge moyen pour un premier enfant chez un homme, je pense, c'est 34 ans au Québec aujourd'hui. Je pense que Bernard Drinville parle de rendre possible là, le transfert d'embryon jusqu'à 45 ans. Donc, c'est parce qu'on tient compte du fait que les femmes ont des enfants très tard. Et quand elles ont un enfant à 40 ans, ben, elles n'en ont pas deux, elles n'en ont certainement pas trois. Elles en ont un.
Mais il y a beaucoup le coût de la vie, Rémi, qui est par texto en ce moment. Le coût de la vie revient énormément dans les discussions.
Le show que tu commences au bureau, que tu poursuis à la commande à l'auto et que tu finis jusqu'à la dernière seconde avant ton meeting avec ton boss. On en jase à Boulevard 102.1.
Et que oui, et à 13h30, mets-toi un petit écouteur intelligent dans ton oreille qui paraîtra pas trop pendant ton meeting. Va sur le blvd.fm, la web radio, puis écoute-nous en cachette. Fais semblant, dis oui, oui, oui à ton boss. Il va être heureux, tu vas peut-être avoir une augmentation de salaire.
T'encourages les mauvais comportements professionnels.
Ben, pour nous écouter, mais hein? Il n'y a pas de doute là-dessus. À la météo aujourd'hui, moins 3 degrés, possibilité d'averse de neige, moins 4, possibilité d'averse de neige pour vendredi, c'est-à-dire demain. Neige intermittente au puits à 4 degrés pour samedi, mais moins 10 ensoleillé pour dimanche. Au sport, je vous rappelle que le Canadien de Montréal reprend l'action ce soir contre les Highlanders de New York et Patrick Roy. C'est au Centre Bell, c'est à 19h. À quel endroit allez-vous écouter le match? 418-971-101. Moi, je m'en vais à Cage au sport, le Bourgneuf, avec mon gars, son chandail d'Ivan Demidov, un de mes chums, on va triper bien raide à soir sur le hockey. Et dans le baseball majeur, fan des Jays de Toronto qui avait trippé sur la dernière saison sur les séries éliminatoires, on est passé à 2 retraits de la série mondiale. Sachez que le lanceur de 41 ans, Max Scherzer, vient de signer un contrat d'1 an, 3 millions de dollars avec les Jays, mais avec les bonnies, ça pourrait aller jusqu'à 10 millions de dollars. Parlant de millions de dollars, Pascal CV, tu sais, le gouvernement en a trop des millions. Fait qu'on en dépense à droite, à gauche. Puis là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec ces millions-là? Donc, on a pris 2,2 millions de dollars et on a dit, on va faire des nouveaux panneaux pour identifier nos écoles parce que les anciens panneaux, il est écrit commission scolaire dessus puis on est rendu des centres de services scolaires.
Ça fait des années qu'on est des centres de services scolaires. Hey. Puis honnêtement, on pensait que ça allait changer la structure et tout, mais c'est vraiment juste un branding.
Ben oui, puis là, t'étais tout mêlé quand t'arrivais devant une école. Tu disais, ben est-ce que c'est une école du Québec? Parce qu'il est marqué commission scolaire. Monsieur Gingras, Éric Gingras, président de la CSQ centrale syndicale du Québec. C'est ça, les gens étaient tout mêlés. Il fallait investir 2,2 millions, rassurez-moi.
Ben, ce que vous me dites là, c'est pas mal la réaction du personnel qu'on présente, qu'il soit prof, qu'il soit professionnel, qu'il soit personnel de soutien. Ils savaient à quelle école aller, même si la pancarte disait commission scolaire.
Ah oui, et même s'il n'y avait pas le fleur de lys en bois qui nous a coûté jusqu'à 600 000 $ pour 40 enseignes.
Absolument. Puis dans cette période de restriction, puis on va se le dire, on fera pas semblant, on jouera pas aux démagogues, là. 2,2 millions ou même 3 millions si on met tout ensemble, là, c'est clair que dans un budget en éducation où on parle de quelques milliards, c'est pas beaucoup au niveau comparatif. Mais ce qu'on peut faire avec ces sommes-là dans les écoles, alors que tout le monde gratte les fonds de tiroir, tantôt pour du savon, pour le personnel de soutien, tantôt pour du matériel, pour le personnel qui sont en contact direct avec les élèves, ben c'est sûr que ça, c'est vu comme une dépense inutile.
Ben moi, là, je le comprends. Là, oh, c'est peu, puis c'est la manière dont les gouvernements souvent vont essayer de se défendre. Mais quand tu ramasses les c'est peu ici et là, tu te ramasses avec des milliards qui peuvent changer des choses. Puis je ramène toujours, quand on fait des comparatifs, mettons, là, on a utilisé ça pour des pancartes, mais on a dit non, rappelez-vous, à une femme qui, avec une entreprise, voulait commanditer des climatiseurs dans les classes pour être sûr que les jeunes soient plus confortables à des périodes de canicule pour apprendre et pour être capables de faire leur travail. Le 2.2 avec la commandite, d'après moi, ça en permet d'en installer quelques-uns là, en plus.
Bien, absolument. Puis on peut faire ça avec un paquet d'éléments. Je pense aussi, vous l'avez dit d'entrée de jeu, tu sais, tout ça, c'est une réaction ou quelque chose qui est arrivé parce qu'on a changé ça de commission scolaire à centre de service. Et ça a-tu réellement changé quelque chose? Non. Le personnel des milieux, ils vont vous dire non. Donc, encore une conséquence d'un gouvernement qui a pris des décisions pour que ça paraisse. On l'a vu avec les maternelles 4 ans. Là, il s'est rendu compte que il n'y avait pas d'espace, puis encore moins de personnel. Fait que là, il les a arrêtés. C'était une promesse, ça. Il mettait même son siège en jeu là-dessus, notre premier ministre. Et là, la commission scolaire, M. Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation à ce moment-là, disait, avait promis à tout le monde de baisser les taxes scolaires, etc. Ça a donné qu'ils ont baissé. Mm-hmm. Les gens payent moins de taxes scolaires, mais ben, il a fallu renflouer ces coffres-là dans le budget en éducation pour que ça arrive kiff-kiff. Et donc, aujourd'hui, on dit il manque d'argent. Fait à la fin, là, c'est tout ça qu'on a fait, puis ce 2,2 ou ce 3 millions-là, c'est un exemple, effectivement, d'une gestion là, axée sur s'assurer de paraître.
À titre informatif, là, un centre de service scolaire, Jeff, je suis retournée dans mes notes de 2020.
Mm-hmm. Ouais, vas-y.
Parce que je me rappelle que je m'étais écrit des points de forme sur les changements majeurs qu'allait amener le fait de passer à des centres de service scolaire à place des commissions scolaires. Mais c'était l'abolition des élections scolaires francophones, la fin des commissaires élus, puis la mise en place d'un conseil d'administration qui était composé de parents, membres du personnel, puis membres de la communauté. En gros, là, les trois objectifs qui étaient un peu visés, c'était dépolitiser la gouvernance, donner plus de place aux parents en milieu scolaire puis simplifier la gestion. Est-ce que ça demandait d'investir autant pour changer un branding et donc des pancartes et donc un nom puis les enregistrements, comment c'est fait au gouvernement? Moi, là, je me pose beaucoup de questions.
Bien, vous avez raison. Puis je vais juste quand même vous rajouter un petit quelque chose. Ça en est suivi un autre projet de loi par la suite, déposé par le ministre Drainville, qui, lui, s'est assuré, parce que vous avez nommé « dépolitiser », de le politiser davantage parce que après ça, les directions générales étaient toutes tributaires des décisions du ministre. Alors, on a passé à dépolitiser pour pas que la communauté s'en occupe, puis en étant conscient aussi que le pourcentage de participation dans bien les milieux n'était pas nécessairement très, très élevé. Alors, à la fin, là, ben, il nous reste à ce moment-là un branding de gouvernement, alors qu'avant, ben, c'était le nom d'une commission scolaire des draveurs, commission scolaire de l'amiante, qui était très, très axé sur la communauté. Et là, maintenant, le gouvernement s'est dit, on s'en empare dans nos bureaux de Québec. Mm-hmm.
Je suis Arlétienne qui nous écrit par texto. 3 millions, c'est environ 50 orthophonistes. Il n'a vraiment pas tort. Éric Gingras, vous êtes président de la Centrale syndicale du Québec. On en parlait avec notre chroniqueur Rémi Villemur avant votre entrevue. Où la Centrale syndicale du Québec se situe par rapport au port de signes religieux? Parce que plusieurs enseignants, plusieurs techniciens en service de garde qui vont quitter à compter du 1er mars.
Bien, écoutez, on a déposé notre mémoire là en commission parlementaire, puis on était très clair là-dessus. Là, on est d'accord avec la laïcité. On était du consensus Bouchard-Taylor sur le port des signes pour les personnes en autorité. Là, on l'élargit avec nos collègues qui sont éducatrices, nos collègues qui sont les services de garde, PES. On a dit qu'il fallait faire attention. Puis là, on en voit les effets parce que, vous savez, je peux avoir toutes les valeurs, puis la réalité, là, c'est que tout le monde est d'accord avec ça, la laïcité de l'État, etc. Moi, les membres, puis souvent, on nous demande au syndicat d'être à l'écoute des membres. Si j'écoute mes membres, ils vont dire qu'ils sont d'accord avec ça. Par contre, si ça implique que le groupe d'à côté perd son éducatrice, puis là, il manque une personne pour s'occuper de 20, puis ça a un effet sur moi qui devra maintenant m'en occuper 26, bien, je vais faire ce que... Ils vont me demander de faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire de demander une vraie clause grand-père.
Et la vraie clause grand-père s'appliquerait pour les gens qui ont été embauchés alors que cette règle-là n'était pas là?
Ben voilà. Mais écoutez, je vais vous donner un exemple avec le milieu du personnel de soutien qui est différent avec le milieu du personnel enseignant. Le mouvement de personnel est énorme. Et là, ce qui est venu donner comme clause grand-père dans le projet de loi ou dans la loi qui a été adoptée, c'est si tu restes dans ton même poste, pas juste dans ton même employeur. Et souvent, le personnel de soutien va se promener parce qu'ils veulent chercher des heures. Ça, c'est normal, hein? On veut travailler. Puis moi, si je suis éducatrice, puis je fais juste 17 heures, puis j'ai les capacités à devenir préposé, puis faire 30 heures, ben je vais changer d'affectation. Mais si je fais ça, et c'est ça l'enjeu entre mars et finalement l'adoption de la loi, il y en a qui l'ont fait là, avec les affectations de juin, etc. Et en le faisant, ils ont resté avec le même employeur des fois pendant 20 ans qu'ils étaient là, ben on a dit, ben ta clause grand-père ne suit pas. Et c'est ça qu'on est allé demander. C'est très technique, là. Puis là, on n'est pas sur sur des grandes valeurs. On est sur s'assurer que la collègue à côté va être capable de s'occuper de ses élèves et de faire sa tâche.
On se rejoint, somme toute, sur la clause grand-père. Il n'y a pas de doute dans mon esprit. Éric Gingras, président de la Centrale syndicale du Québec, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Toujours un plaisir de parler avec une personne du milieu syndical qui est bien groundée sur le terrain puis qui ne nous amène pas d'idées farfelues. J'adore discuter avec vous.
Un plaisir. Bonne journée à vous.
Merci. Éric Gingras, président de la CSQ. En effet, on en parlait ce matin dans Marceau le matin, Pascal. Ça aurait pris une clause grand-père. T'sais, moi, je suis pour qu'on interdise les signes religieux, mais ceux qui ont été embauchés alors que la loi n'avait pas été adoptée, pour moi, devraient être en mesure de le porter encore.
Moi, je suis un petit peu plus flexible sur cette opinion-là. Je me questionne encore. Je ne suis pas sûre que j'appliquerai une clause grand-père.
Ah ouais?
Parce que je pense qu'il y a tout le temps des changements qui peuvent être apportés. Mm-hmm. Puis malheureusement, des fois, le bassin doit y aller quand ce n'est pas quelque chose, par exemple, qui est primordial.
Ouais, en effet.
Mais je comprends ton point aussi.
Ouais.
Je pense que ça fait du bien d'avoir des désaccords des fois aussi.
Exactement.
Sur des choses, là.
Deux belles visions. Êtes-vous pour ou contre une clause grand-père? 418-971-1021.
En une minute pour s'amuser, les projets scolaires au Québec puis au Canada peut-être qui ont été refusés ou reportés ou réduits parce qu'ils étaient jugés trop coûteux. Dans quelle catégorie on les avait pendant qu'on dépense 2,2 millions de dollars en pancartes pour des nouvelles écoles ou des agrandissements? Pendant ce temps-là, on a des modules pour les jeunes.
Oui, oui.
Fait que, entre autres, à Beauport, il y en a une qui a été refusée, une demande pour avoir des nouvelles écoles dans la commission scolaire des Premières Seigneuries. Pour la modernisation des laboratoires scientifiques, ils ne sont pas à jour. Ça a été reporté ou encore on dit qu'on n'avait pas les fonds. Pour les salles de spectacle, les infrastructures culturelles scolaires, les sorties scolaires aussi, ça a été très complexe. Les projets environnementaux majeurs, là, on parle de panneaux solaires, on parle de réaménagement complet de cours d'école, des conversions énergétiques complètes pour des bâtiments anciens, installations sportives aussi, on en a refusé, on en a reporté ou encore on a décidé tout simplement d'en jaser dans 10 ans. Virage numérique aussi. Alors, c'est tous des projets qui ont été abolis, pas mis sur pied ou reportés parce qu'on n'avait pas assez d'argent.
Mais on a mis des affiches. Et on va justement parler de finances dans un instant avec Gabriel Giguère, analyste senior politique pour l'Institut économique de Montréal. C'est-tu vrai, Pascal CV, que la menace référendaire nous fait payer plus d'intérêts ou c'est notre décote? On fait la lumière sur ce grand débat de société avec Gabriel Giguère.
Jazz, à Boulevard 102.1.
Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, on en jase.
Présentement, 13h46, après l'émission On en jase, c'est Gravel dans le retour. Manquez pas 16h30, Judith Demel sur cette histoire très effrayante de ce coach de cheerleading, Mathieu Martel, qui aurait agressé sexuellement des membres de son équipe et sur plusieurs années. Judith va venir nous décrire le procès qui se déroule depuis lundi. Également, grosse invitée dans Marceau le soir, Pascal CV.
Olivier Primeau, qui va paraître dans l'émission de Marceau le soir. Donc, dès 18h, vous allez pouvoir entendre cette conversation-là entre lui et Yann Marceau. Il faut savoir qu'Olivier Primeau, oui, influence importante, mm-hmm. mais également homme d'affaires, surtout homme politique à en devenir. Du moins, il travaille très fort là-dessus. Puis c'est aussi la tête d'affiche quand on parle de ressources d'eau au Québec, la manière dont peut-être la protéger, la commercialiser. Mm-hmm. Donc, il y a beaucoup de sujets à discuter ensemble.
Je ne serais vraiment pas surpris de le voir se présenter aux prochaines élections. Boulevard 101 est fier de promouvoir encore une fois le festival Oceaga édition 2026 qui aura lieu du 31 juillet au 2 août au parc Jean-Drapeau. Sur place cette année, 21 Pilot, Tate McRae, Lord Of Monster of Men, Franz Ferdinand, Turnzill et plus encore. Vous voulez gagner vos billets pour les 3 jours du festival? Oui, oui, t'as bien compris, 3 jours de festival. Reste à l'écoute du Boulevard du Rock ce week-end avec Dan Caron et Colosse. C'est tellement payant d'écouter la meilleure musique en ville. Tu pourrais repartir avec ton laissez-passer pour 3 jours pour le festival Oceaga. Les billets seront en vente ce vendredi dès 10h. Via Evenco. On va justement rejoindre un de nos collaborateurs qui est établi à Montréal, l'excellent Gabriel Giguère, analyste politique senior pour l'Institut économique de Montréal. Gab, t'es-tu un fan d'Oceaga?
Ben, c'est sûr que ce serait bien le fun de gagner une paire de billets, je te mentirais pas. <là. rire>
Mais t'es avec nous, tu peux pas.
C'est ça. Je t'inquiète, mais toujours agréable, oui. Ouais. The 21 Pilots, en tout cas.
C'est ça. Gabriel, si à Oceaga, on a des spectacles de musique, on a un bon spectacle d'humour ce matin à l'Assemblée nationale à la période des questions. Je te fais écouter Éric Girard, notre ministre des Finances.
Ce serait vraiment apprécié si les gens faisaient preuve d'exactitude et reconnaissait qu'il n'y a pas de déficit record, comme le prétend l'opposition. À 1,5% du PIB, en fait, on se compare très bien avec les autres juridictions du Canada.
OK, Gab, tu nous as déjà dit un matin, après le dépôt du budget de l'an dernier, qu'Éric Girard était sur le podium, c'est-à-dire pour la médaille d'or et la médaille d'argent pour les pires déficits de l'histoire. Comment ça, Éric Girard, c'est pas ça?
Ben, c'est un peu troublant, comme c'est le ministre des Finances depuis quelques années. Je suis persuadé qu'il a accès aux données. Non, mais faut juste être sérieux un petit peu. Là, quand on regarde l'état des finances publiques au Québec, on le sait très bien que le 12,4 milliards qui est projeté pour l'année actuelle budgétaire, c'est le record au Québec. C'est assez clair. Puis tu sais, on a quand même une décote là au Québec l'année dernière en avril. Puis qu'est-ce que ça nous disait?
Ben, c'est ça.
Ça va pas très bien.
Et là, tu m'amènes sur la décote et voici la question qui tue. Est-ce la menace référendaire qui nous fait payer 0,05% de plus sur nos prêts ou est-ce la décote?
Ben là, c'est la question, mais en même temps, je me dis, je pense que c'est assez clair. Là. Il y a deux éléments. La question de la menace référendaire, est-ce que ça peut amener de l'incertitude? La réponse est oui. Si on le dit mm-hmm. concrètement, ça se peut. Mais là, soyons sérieux. Là. La décote, pourquoi on a une décote? Trop de dépenses en capital, pas de retour crédible à l'équilibre budgétaire. Je pense que le ministre le sait, là. C'est assez clair. Puis si on le sait, si on explique que c'est vraiment juste à cause du référendum, mais donnez-nous les papiers, expliquez-nous ça concrètement avec des sources. Je pense que c'est assez clair. Puis on essaie de rentrer dans la politique ici, là, mais il y a eu une mauvaise gestion des finances publiques là, au sein de la Coalition Avenir Québec. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus.
Gabriel Giguère, hier, j'ai regardé la Caisse de dépôt et de placement faire son bilan. On m'a rapporté qu'on avait des rendements de 9,3%. Et là, on a tout de suite mis comme diapositive l'Ontario, c'est 6% parce qu'on se compare toujours avec l'Ontario. Mais Caroline, l'indice de référence est 10,9. On est bon ou on n'est pas bon?
9,3%, ça peut paraître beaucoup, puis c'est pas mauvais en soi, mais t'as raison de le dire, il faut se comparer à notre indice de référence qui est à 10,9, donc on est quand même sous l'indice de référence, et quand on regarde, là, d'abord, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, ça gère quoi? Ça gère le régime des rentes du Québec, donc notre bas de laine québécois, la REGOP, le fonds de pension des travailleurs du secteur public, le portefeuille de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, on a des titres boursiers qui ont relativement bien fait à 17,7% l'année dernière, mais ça reste sous l'indice indices de référence. On a également les immeubles infrastructures. Ça fait des années à la Caisse de dépôt et de placement du Québec qu'on en arrache avec ça. On peut penser au tour à bureau avec la pandémie où les rendements étaient très faibles. Et les placements privés, là, c'est un désastre l'année dernière. Un vrai désastre. 2,3 % de rendement contre un indice qui est à 12,6. Fait qu'on est à, on a 10 points de pourcentage de différence. Bref, c'est pas que ça va pas bien, c'est que ça pourrait aller mieux. Et quand on compare ça à d'autres types de portefeuilles, style FNB, on comprend qu'on paye beaucoup de monde à la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Là, faut quand même rappeler que les frais de gestion des portefeuilles, c'est plus de... En fait, c'est 0,74% de frais de gestion. Puis quand on regarde des ce qui est FNB, là, des fonds négociés en bourse, on est plus vers du 0,2, 0,1. Donc, des fois, on se demande, coudonc, ça serait-tu plus simple de mettre de l'argent dans des fonds négociés en bourse qui coûterait moins cher et qui ont un meilleur rendement que notre caisse actuellement qui coûte pas mal cher en gestion, je pense qu'il faut se poser la question. L'autre élément qu'on a vu également concernant la Caisse de dépôt et de placement du Québec, c'est quand même la part dans le portefeuille québécois. On se rappellera que là, on est à 100 milliards de dollars environ, donc on gravite autour de 20% du portefeuille de la Caisse de dépôt et de placement du Québec investi au Québec. On apprend qu'on n'a plus de cible à court terme, mais il faut qu'on comprenne quelque chose. Tout le monde se rappelle en novembre 2025, on a eu le dépôt de la vision économique du gouvernement du Québec. Et dans cette vision économique-là, ce qu'on nous dit, c'est « Faites attention, on est bientôt à 100 milliards, mais vous allez voir, on va avoir toute une cible en 2030 pour la Caisse de dépôt et de placement du Québec, plus d'argent au Québec. » Ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose, soyons très clairs.
Toi, quand tu dis faudrait peut-être voir ailleurs, investir ailleurs, quoi que ce soit, est-ce que tu penses que c'est si simple que ça ou faudrait une façon de refaire un petit peu nos conversations, oui, mais nos affaires, point, et que ça pourrait déstructurer au complet le marché?
Ben, moi, je pense qu'il faut juste réimaginer ça au sein du gouvernement du Québec. D'abord, pourquoi les Québécois et les Québécoises doivent obligatoirement envoyer leur argent dans le cadre de la RRQ à la Caisse de dépôt et de placement du Québec qui est gérée? Il y a d'autres choses qui peuvent se faire. Là, on pourrait dire au gouvernement du Québec, Pascal, JF, Gabriel, vous êtes obligés de mettre le 5%, 5,4% environ de votre salaire annuel là, de côté, mais pas avec la RRQ qui est gérée par la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Vous pouvez le mettre dans un autre fonds. Comme ça, ça fait en sorte que, oui, vous avez votre coussin financier, vous allez avoir des versements plus tard à votre retraite, mais ça ne sera pas nécessairement géré par la CDPQ, hein, la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Il y a des possibilités alternatives. Et quand on regarde le rendement, je le répète, 9,3%, c'est pas mauvais comme rendement. Mais si on peut aller chercher plus ailleurs, je vois pas pourquoi on ne serait pas libre, tout un chacun, de choisir où on envoie notre argent.
T'as tellement raison, Gabriel Gigard. C'est toujours un bonheur de te parler. Tu nous éclaires sur des enjeux économiques en quelques minutes. Des enjeux que je ne suis pas capable de comprendre, sinon. Merci.
Ben, c'est un bonheur partagé. Bonne journée.
Salut, Gabriel Gigard, analyste politique senior au niveau de l'Institut économique de Montréal. Pascal, t'es-tu énervé?
Pourquoi?
Mais c'est le Canadien, toi!
Ah!
19h!
Hey, j'aurais dû m'en douter que c'était pas
le retour du capitaine Nick Suzuki sur la patinoire après sa décevante médaille d'argent aux Jeux olympiques.
Est-ce que je devrais l'être? Donc, si j'étais fan
ben
du
oui.
Canadien...
Oui, okay. Ah oui, ça fait tellement longtemps qu'ils ont joué. Le Québécois Zachary Bolduc sera laissé de côté. C'est le retour d'Alex Newhook dans l'uniforme du Canadien. Le match est à compter de 19h. Je vous souhaite un excellent match de hockey. Pascal, on se reparle demain?
Sans faute.
Excellent. Bon après-midi, guys. C'est le retour de Gravel qui suit à l'instant même. Et Marceau du soir avec Olivier Primois à compter de 18h.